Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, très bon réveil à tous sur RMC. Soyez les bienvenus dans Apolline Matin, nous sommes le jeudi 11 décembre. Soutenir les restaurateurs en élargissant les critères du fait maison, c'est ce que propose le gouvernement et c'est une information RMC. Le ministre du Commerce va présenter aujourd'hui son plan pour revaloriser la gastronomie française. Et le chef Alain Fontaine, un ami de cette matinale et sa toque, débarque donc dans notre studio dans 10 minutes pour réagir à cette proposition et pour parler aussi des difficultés auxquelles font face aujourd'hui les restaurateurs. J'attends en particulier votre témoignage, que vous soyez restaurateur, cuisinier ou tout simplement nous dire si vous continuez à vous rendre dans ces restaurants. Et puis un mois après le meurtre du frère d'Amine Kessassi, le militant anti-drogue, où en est-on à Marseille? Sur le terrain, les opérations pour démanteler les points de deal se poursuivent, mais avec quels résultats? Les complices travaillent même parfois au sein de la justice. C'est une histoire à peine semblable. On l'a découvert hier. Des secrétaires, des personnes dans le monde de la police qui, en fait, l'air de rien, glissent des informations et notamment à la DZ Mafia. À 7h40, l'invité d'Apolline Matin, ce sera le sénateur LR rapporteur de la commission d'enquête sur le narcotrafic, Étienne Blanc. Toutes les informations donc. La France en guerre contre le narcotrafic et peut-être en guerre tout court. Parce que, voilà, il le répète depuis 2017, nous ne sommes pas prêts. Qui ? Le général Pierre de Villiers. Le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, est mon invité à 8h30 dans le face-à-face. Ne le manquez pas, sa parole est rare. Et vous ? Vous voulez intervenir, nous alerter, témoigner, réagir ? Le 3216 ou le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Dans un instant, on va aussi vous couvrir de cadeaux, n'oubliez pas. On ouvre ensemble le calendrier de l'Avent tous les jours. Et soyez bien à l'écoute parce que vous pourrez gagner d'ici 9h. Dans un instant le journal, mais tout de suite à 7h, la météo et Géraldine, il fait encore gris et doux.
Oui, gris, très très gris hein, ce matin, et avec beaucoup de brouillard, parfois très peu de visibilité. Il faut prendre un peu d'altitude hein, pour trouver un ciel plus lumineux. Cet après-midi, on trouvera quand même du soleil du sud-ouest jusqu'au massif central. Il y aura du soleil aussi vers les Alpes jusqu'à la Corse. Ailleurs, ce sera gris avec même un petit peu de pluie sur le nord-ouest. Mais la douceur est toujours là, même si les températures sont bien en baisse ce matin sur la moitié nord. Cet après-midi, il fera 10 à Lille, on aura 12 degrés à Grenoble, Bourges, 13 à Brest. Il fera 15 à Bordeaux, Toulouse, 16 à Marseille et jusqu'à 19 pour Biarritz.
7h, merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. De toute la France, de tous âges, de toute catégorie sociale, une vingtaine d'hommes acheteurs de poupées sexuelles à caractère pédopornographique interpellés et placés en garde à vue à l'issue d'une vaste opération d'envergure nationale hier. RMC vous révèle ce matin le plan du gouvernement pour assouplir les règles du fait maison dans la restauration. Et le PSG assuré de jouer à minima les barrages de Ligue des Champions après son match nul et vierge face à Bilbao hier soir.
Nice, Rouen, Verdun, coup de filet à l'échelle du pays contre ces acheteurs de poupées sexuelles.
Des objets à l'apparence enfantine qu'une vingtaine d'hommes se sont procurés sur des plateformes chinoises, sinon encore AliExpress, interpellés et placés en garde à vue. 5 d'entre eux au moins sont connus pour des faits de pédocriminalité, des hommes Guillaume Bier au profil divers et variés.
Oui, ces suspects viennent de tous horizons, hein, différents milieux sociaux, classes d'âge, ils vivent un peu partout sur le territoire. Leur seul point commun, en fait, c'est bien leur attrait pour ces poupées sexuelles infantiles, comme cet homme d'une quarantaine d'années qui habite dans un petit village de l'arrière-pays niçois et qui fait partie depuis hier de la vingtaine de suspects arrêtés et placés en garde à vue. C'est bien leur achat de ce type de poupées qui les a trahis. Des articles commandés et payés en ligne ces derniers mois sur des plateformes commerciales chinoises. Voilà comment les enquêteurs ont identifié ces acheteurs et retrouver leurs traces. À l'issue de leur garde à vue, ils risquent des poursuites judiciaires. Ils encourent en théorie jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Et dans la lignée de cette affaire, c'est la semaine prochaine que la justice se prononcera sur la suspension ou non de Chine en France pour la vente de ces produits illégaux à l'origine du scandale. À retenir également cette nouvelle réunion des acteurs de la lutte contre le narco-banditisme à l'Élysée. Point d'étape à quelques jours de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille et au surlendemain d'une vaste opération d'ampleur contre les trafiquants de drogue dans la ville un mois après la mort du frère d'Amine Kessassi. Une casserole ornée d'un toit. Petit logo que l'on retrouve sur les cartes de nos restaurants, celui du fait maison et de sa réglementation très contraignante pour les restaurateurs. Le ministre du Commerce souhaite y remédier. Serge Papin va détailler son plan de bataille pour relancer une profession en perte de vitesse. Ce sera aux assises de la restauration et des métiers de la bouche ce jeudi à Bercy. Et cela passe par un allègement des contraintes en matière de fait maison. Victor Jeannin, vous nous présentez en exclusivité pour RMC le plan du gouvernement.
Oui, pour avoir le droit d'utiliser le logo fait maison, un restaurateur doit élaborer ses plats sur place à base de produits bruts, c'est-à-dire non cuisinés. La loi fixe des exceptions, le pain, le fromage, les condiments notamment, liste trop restrictive, déplorent les restaurateurs. L'idée serait donc d'autoriser les ovoproduits, c'est-à-dire le blanc ou le jaune d'œuf, déjà séparés de la coquille et conditionnés en briques ou en bidon, mais aussi la crème fraîche végétale ou encore les légumes blanchis. Le gouvernement souhaite aussi tripler le nombre de maîtres restaurateurs, un titre contrôlé par l'État et délivré seulement à 3000 établissements aujourd'hui. Serge Papin compte en faire la promotion, mais aussi simplifier les démarches nécessaires pour y prétendre. Pour valoriser la gastronomie française, il faut encourager le fait maison sans le dénaturer, résume-t-on dans l'entourage du ministre.
Un budget d'ici au 31 décembre, c'est l'espoir de Sébastien Lecornu. Après la sécurité sociale, les députés n'ont pas eu à débattre de longues heures pour s'accorder sur une hausse du budget de la défense, votée à une très large majorité hier à l'Assemblée nationale. Vote non contraignant à l'initiative du Premier ministre sur le principe et l'interdiction d'une hausse de 6,7 milliards d'euros.
Oui, Sébastien Lecornu s'est aisément glissé dans son ancien costume de ministre de la Défense pour convaincre que la France doit se réarmer. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il pointe notamment des menaces hybrides.
Ces stratégies se caractérisent par la conjonction de cyberattaques, de manipulation de l'information, de sabotage et du recours à des opérations militaires. Ces menaces, elles font poindre un risque d'être défait sans même avoir été envahi.
Il cite l'achat de stocks de munitions et le lancement d'une filière industrielle de production de drones. Donner plus de moyens aux armées, le RN vote pour, mais à la tribune, Marine Le Pen dit ne pas être dupe.
Ce débat et ce vote sont pour vous l'occasion d'instrumentaliser le budget de la défense pour faire passer votre loi de finances. Une loi de punition sociale et fiscale dont nous avons dénoncé la toxicité.
Communistes et insoumis ont voté contre une hausse des moyens de la défense. Le député LFI Éric Coquerel préférerait mettre de l'argent ailleurs.
Faire payer plus de 6 milliards de plus pour le budget de la défense sur le dos des autres ministères, travail, écologie, c'est une chose que nous n'acceptons pas.
De son côté, Sébastien Lecornu affirme que le budget de la défense est un sujet qui peut rassembler.
Et ne manquez pas mon invité à 8h30, le général Pierre de Villiers, l'ancien chef d'état-major des armées. Il parle de lacunes, de manques en effectifs, en logistique, en budget, en stratégie. Bref, il est inquiet.
Après la bronchiolite, la grippe gagne du terrain particulièrement virulente. Cette année, à l'exception de la Corse, toutes les régions sont en seuil épidémique. On en reparlera dans le journal de 8h. C'est une autre maladie qui inquiète les autorités vétérinaires. La dermatose nodulaire contagieuse qui frappe les bovins apparue en juin en France, elle déchaîne la colère des éleveurs en raison de l'abattage de troupeaux. Des quinquas est détecté. C'est la menace qui pèse sur un cheptel des Bordes sur Arize en Ariège. 200 bêtes menacées d'exécution depuis hier. Et pour empêcher l'intervention des vétérinaires qui doivent euthanasier ces bêtes, des dizaines d'agriculteurs se mobilisent autour de la ferme bloquant les accès sur place. Et en direct ce matin, notre correspondant à RMC Jean-Wilfried Forquès, où le blocage se poursuit.
Oui, plusieurs dizaines d'agriculteurs ont passé la nuit dans la propriété qui se trouve à une centaine de mètres juste derrière moi. La propriété est bloquée par des branches, des arbres qui ont été déposés ici par les agriculteurs. Ce matin, on recense 350 personnes qui sont ici en signe de solidarité. Des agriculteurs, évidemment des riverains, mais également des restaurateurs qui travaillent avec ces deux agriculteurs en circuit court. On est avec Titouan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici en signe de solidarité, vous êtes agriculteur de la coordination rurale.
Oui, oui, tout à fait, pour soutenir nos collègues, les deux éleveurs qui ont une vache malade. Et il faut se soutenir, être soudé, parce que la maladie peut arriver dans n'importe quelle exploitation, que ce soit chez nous, chez nos voisins. Il faut être soudé dans ces moments-là pour accompagner les agriculteurs concernés.
Voilà, la solidarité qui est en train de se mettre en place ici à proximité de cette ferme. Un protocole a été envoyé au ministère. Les agriculteurs et la Chambre d'agriculture de l'Ariège ne veulent absolument pas de cet abattage, de ce dépeuplement total. Ils disent qu'il faut simplement abattre les vaches qui sont malades. Des cas similaires de dermatose ont été observés il y a quelques heures dans le département voisin des Hautes-Pyrénées.
Jean-Wilfried Forquès en direct des bords de Suarez en Ariège ce matin pour RMC.
7h07, le PSG face au mur de Bilbao.
0-0 hier soir en Terre Basque pour des Parisiens qui n'ont pas réussi à concrétiser leurs très nombreuses occasions face à un très très solide gardien espagnol qui a arrêté de nombreux arrêts. Pas de quoi susciter l'inquiétude de l'entraîneur Luis Enrique.
Frustré. Pourquoi ? Ça a été un match très intense, très différent. On a bien fait le boulot. Je pense qu'on aurait pu gagner ce match parce qu'on a créé beaucoup de chances, mais Unai Simon a été le meilleur joueur sur le terrain. Le groupe est très serré et il va falloir gagner encore plus de points pour classifier dans les 8 premiers.
Et pas d'impact au classement, les Parisiens sont donc 3e assurés ce matin de jouer à minima les barrages. À suivre ce soir la Ligue Europa, Lille-Lyon à 21h sur RMC, on n'oublie pas Nice à 18h45 face à Braga. Autre rendez-vous sur RMC demain 17h45, France-Allemagne, demi-finale des championnats du monde de hand féminin. Les Bleus qualifiés hier face au Danemark 31-26.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h08, vous êtes nombreux à réagir à cette annonce. Christian Estrosi qui voudrait rendre gratuits les transports pour les retraités. Bonjour Alexandre. Alexandre, bonjour. Vous êtes loin d'être retraité puisque vous avez 30 ans et que vous habitez à Nice, gestionnaire en hôpital. Bonne ou mauvaise nouvelle, cette idée de la gratuité pour les retraités ?
Ben, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça va encore reposer sur nous, sur les actifs, sur ceux qui travaillent tous les jours. En fait, parce qu'on nous dit que ça va être financé par ceux qui prennent le tramway, le tourisme et puis ainsi de suite. Mais on sait très bien que c'est faux. On sait très bien qu'il y a une partie qui va nous être imputée à nous. Je prends pour exemple l'évolution de la taxe foncière.
Oui.
Il y a quelques années, quand j'avais encore la taxe foncière et la taxe d'habitation, la dernière que j'ai payée, je payais 1390 euros, on va dire 1400.
D'accord.
Et aujourd'hui, je suis à 1900 euros.
Ah ouais. Ouais, vous êtes et à quasi 2000 euros de taxe foncière.
Voilà, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Pour zéro résultat.
Oui, vous, parce que alors vous allez continuer à les payer, les transports. Ça, ça, c'est sûr, ce sera pour les retraités. D'ailleurs, c'est toujours la question. Voilà. Et d'ailleurs, même en tant que mère de famille, je me dis, c'est merveilleux. On nous dit toujours que c'est la gratuité. À Paris, par exemple, c'est pour les enfants. Mais en même temps, à un moment, c'est les actifs qui reposent, sur lesquels toujours ça repose. Alors, vous craignez, Alexandre, de payer plus cher. Mathieu.
Vous avez entendu sans doute, Alexandre, que l'adjoint au transport s'est aussi engagé à ce que les tarifs n'augmentent pas pour les autres. Donc c'est un abonnement à 15 euros pour les jeunes et 30 euros.
Mais votre inquiétude, si j'ai bien compris, Alexandre, c'est que ce ne soit pas les tarifs qui augmentent, c'est que ce soit les autres taxes.
Voilà.
Merci beaucoup, Alexandre. Merci Alexandre d'avoir réagi. Et comme Alexandre, vous connaissez le chemin. C'est le 32-16. Très belle journée à vous. Et puis cette question ce matin. Est-ce que vous avez toujours autant envie d'aller au restaurant? Ou en tout cas, comment redonner envie aux clients de retourner au restaurant? C'est une information RMC. Le gouvernement s'apprête à annoncer un plan pour revaloriser la gastronomie française. Bonjour Alain Fontaine.
Bonjour.
Chef Alain Fontaine, devrais-je dire. Vous êtes le chef du restaurant Le Mesturet à Paris et vous présidez l'Association française des maîtres restaurateurs. Vous êtes venu d'ailleurs avec votre blouse de chef, autoriser davantage de produits transformés à entrer dans le label du fait maison. Est-ce que c'est une bonne idée? Je vous pose la question dans un instant. Et à vous aussi, venez donc témoigner. Est-ce que vous voulez soutenir les restaurateurs, ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes petit à petit détourné des restaurants? Je vous attends au 32-16, il est 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14. Excellent réveil à tous sur RMC et RMC Story. On va vous emmener au restaurant, enfin on va vous réemmener au restaurant parce que les chiffres sont têtus. Les Français désormais boudent les restaurants, moins 9% en 6 ans et le gouvernement veut les faire revenir. Bonjour Alain Fontaine.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Votre restaurant, c'est le Mesturet à Paris. RMC vous dévoile ce matin en exclusivité un plan du gouvernement pour revaloriser la gastronomie française. On va détailler ensemble les mesures. Mais d'abord, est-ce qu'il y avait un besoin de votre côté? Est-ce que vous vous dites, oui, il faut revaloriser la gastronomie?
En tant que maître restaurateur, oui, il y avait un besoin, parce qu'il y a un problème sociologique en France. On n'est pas sur un problème de consommation, c'est-à-dire que toute une génération, parce que fast-food, parce que autre mode de consommation, s'est détournée de la restauration traditionnelle. Et ce bien précieux qu'est la restauration traditionnelle, l'État a oublié de communiquer dessus. Et donc, on a laissé une pénétration d'une américanisation de la restauration, d'une déstructuration des repas, se mettre en place, et se mettre en place sur une, voire deux générations. Donc aujourd'hui, il y a une baisse de la fréquentation des restaurants traditionnels, ceux entre autres qui font vivre l'agriculture française, ceux qui respectent la souveraineté alimentaire, et puis il y a un problème aussi de santé publique. Hein. Je vous rappelle que cette baisse de la fréquentation des restaurants traditionnels va, on peut la comparer avec la hausse de l'obésité en France, 25%
d'obésité. C'est-à-dire que c'était un peu les vases communicants en termes de courbe, et c'est aussi des habitudes de s'asseoir ensemble, un moment de convivialité et de partage, et ça va souvent effectivement avec la question aussi de la nutrition. La question, c'est que parmi les idées de ce plan, il y a aussi l'idée d'élargir et donc d'être un peu moins regardant sur ce qu'on appelle le fait maison. Il y a un certain nombre de points qui jusqu'à présent ne permettaient plus d'avoir le label fait maison. Je pense aux œufs en bouteille, c'est-à-dire
les ovoproduits.
Les œufs qui sont en réalité déjà comme, enfin j'ai toujours du mal à imaginer les œufs en bouteille, mais enfin en gros ça veut dire des œufs qui ont déjà été cassés et qu'il n'y a plus qu'à verser. C'est la crème fraîche végétale, c'est les légumes déjà blanchis. Désormais, le gouvernement veut permettre d'avoir le label fait maison tout en utilisant ce genre de produit comme matière première. Est-ce que vous trouvez ça acceptable ?
Alors, la mention fait maison, qui est à différencier avec les maîtres restaurateurs. La mention fait maison, qui a été mise en place...
Désormais, on sait, hein, c'est cette petite casserole avec un petit toit au-dessus. On sait les reconnaître sur les cartes.
Voilà. Cette mention fait maison, qui a été mise en place en 2014, était extrêmement confuse pour les consommateurs et pour les restaurateurs. C'est-à-dire que quand les restaurateurs se mettaient à dire « je mets fait maison », ils prenaient des risques énormes en termes d'un contrôle. Et le consommateur, lui, par rapport à cette mention fait maison, elle était vraiment très confuse. Il voyait pas trop alors est-ce que cette marmite avec la casserole dessus, c'était toute la carte ou seulement les plats? Qu'est-ce que c'était le fait maison? Est-ce que c'était une cuisine d'assemblage? C'est-à-dire, j'ai un faux filet, des frites fraîches, j'ai une sauce au poivre qui est pas faite maison. Je peux dire que mon plat est fait maison? Donc c'était pas possible. Donc il fallait vraiment et je pense que
assouplir les règles.
Assouplir les règles et faire un fait maison heureux, c'est-à-dire, et c'est notre proposition qui a été, peut-être, je sais pas si elle sera retenue parce que je ne veux pas dévoiler ce que dira monsieur Papin ce matin, mais la certitude c'est qu'il faut faire un fait maison qui soit plus heureux, plus accessible aux consommateurs et plus accessible aux restaurateurs.
Et justement, il y a un des restaurateurs qui nous appelle, Vincent qui a un restaurant à Aix-Villemort-Palisse dans l'Aube. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour à
Pauline. Comment ça va, Vincent? Vous êtes déjà au boulot, j'imagine, là, à 7h18.
Je viens juste de me garer devant le restaurant, je décharge mon pain et j'attaque la mise en place.
Parce que précisément, Vincent, quand on est restaurateur, eh ben, il faut, si on veut bien faire les choses, il y a tout un travail de préparation avant sur ces questions aussi des produits de matières premières. Vincent, il faut faire quoi pour aider les restaurateurs aujourd'hui?
À l'heure actuelle, pour aider les restaurateurs aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que pour que les clients puissent retrouver le goût du bienfait, en fait, ça sera bien de mettre des vrais professionnels en restauration. Mmh. C'est-à-dire, pour être coiffeur, il vous faut un BP ou un machin, d'accord? Pour être restaurateur, il suffit juste de savoir faire à manger, ou enfin de penser savoir faire à manger.
Vincent, ça marche chez vous?
Ouais, mais ça marche parce que je fais énormément d'heures. Moi, je fais 60-70 heures par semaine. J'arrive au resto, j'ouvre ma cuisine, moi il est 7h30, d'accord. Je suis parti à pas d'heure, ça m'a coûté un mariage, hein, il faut être clair. Puis parce que c'est une passion, quoi. Puis accueillir le client, c'est une passion. C'est con à dire, mais c'est un métier, c'est tout. Alors le fait maison, le machin, le truc, faut arrêter de prendre les clients pour des abrutis. Je peux vous assurer que les mecs, quand ils viennent manger chez moi, excusez-moi.
Allez-y, c'est pas grave, je vous pardonne.
Ils savent que c'est du fait maison, quoi. Voilà, c'est tout.
Oui, c'est pas une question de label, quoi.
Et puis voilà, c'est pas une question de label. Moi, je pense que les clients sont capables de reconnaître le fait maison et le pas fait maison.
Vincent, il est où le restaurant exactement? C'est entre 100 et 3. Et comment il s'appelle le restaurant?
Ouais. Il s'appelle, je m'appelle Vincent, donc je l'appelais chez le Vince.
Chez le Vince, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas. Un mot aussi, Alain Fontaine, sur le nombre de maîtres restaurateurs. C'est quoi un maître restaurateur? Le gouvernement veut élargir aussi le nombre de maîtres restaurateurs. C'est quoi la différence?
Alors le titre maître restaurateur, c'est un titre qui appartient à l'État, qui est né en 2007. La grosse différence, c'est qu'en nous, on doit faire maison à 90%, à part le pain et les crèmes glacées et les saucissons. Ça, on, bon.
D'accord.
Et on doit
c'est
faire.
C'est très précis.
Ah oui, c'est très précis. Notre liste dérogatoire est très 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 courte. Et le président de la République, le 29 septembre, a annoncé effectivement que le symbole de la restauration traditionnelle, c'était les maîtres restaurateurs, puisque c'est le titre d'État, mais qu'il y en avait trop peu. En France, 3 000, il en voulait 10 000 en 2027. Et donc, ce qui va se passer ce matin aux assises de la restauration, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle de nos voeux, que ce décret soit revu, que surtout la lumière soit faite sur les maîtres restaurateurs, c'est important. Alors c'est vrai qu'on est à la manœuvre depuis des années, et c'est vrai que le président de la République a pris ça en main depuis quelques années, mais c'est normal parce qu'il est passé par Bercy. Et notre ministère de tutelle, c'est Bercy.
Donc vous le saviez, vous aviez besoin aussi de cette revalorisation. Merci beaucoup Alain Fontaine, chef du restaurant Le Mesturet à Paris et président justement de l'Association française des maîtres restaurateurs. Merci aussi à Vincent, à qui on souhaite une très belle journée. Et je recommande le guide des maîtres restaurateurs, si on veut vraiment être sûr d'aller à la source. C'est publié par votre association des maîtres restaurateurs. Il y a un chevalier qui vient de rentrer dans ce studio. Arthur Chevalier, salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, une coupure pub au milieu de la mi-temps. C'est ce qui nous attend pour la prochaine Coupe du Monde.
Et oui, qu'est-ce que la FIFA ne ferait pas pour gagner de l'argent, hein ? Mais la vérité, c'est que le sport et la pub, du Tour de France à la NBA, eh bien ça a toujours fonctionné ensemble.
Vous nous le dites dans un instant, Arnaud Demange va venir aussi pirater le face-à-face. On se retrouve dans 60 secondes, 7h21 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23, vous êtes bien sûr RMC, c'est l'heure de remonter le temps avec Arthur Chevalier. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Pour la première fois, lors de la prochaine Coupe du Monde l'an prochain, il va y avoir deux coupures pub au milieu des matchs. Une petite révolution.
Oui, quand il s'agit de gagner de l'argent, la FIFA déborde d'imagination.
Oui.
Hein. Ces coupures pub sont justifiées par des nouvelles pauses fraîcheur, oui. Hein, bien sûr. Une par mi-temps, 3 minutes à chaque fois et donc de la pub en plus de celle de la mi-temps. Malin.
On a presque l'impression que maintenant, c'est le sport qui doit s'adapter à la pub.
Alors, vous avez tout à fait raison, mais enfin, c'est quand même pas nouveau. Hein. La pub était là au tout début du sport de masse, hein, dès les premiers Jeux Olympiques en 1896. C'était à Athènes. Et les marques partenaires à l'époque, eh bien, on les connaît puisque c'était Kodak et Coca-Cola. Leur logo apparaissait dans les documents officiels. Donc, le principe était exactement le même.
Le Tour de France va jouer un grand rôle dans l'essor de la publicité dans le sport.
Oui, puisque le Tour de France était déjà très populaire au début du XXe siècle. Hein, et donc, certaines marques vont en profiter. Et la première, c'est le chocolat Meunier. En 1929, Meunier a l'idée du siècle. Suivre le Tour avec une camionnette à l'effigie de la marque. C'était tout simplement la première caravane commerciale du Tour de France. Et c'est pas tout, puisque l'année suivante, Meunier distribue des tablettes de chocolat et de chocolat chaud aux coureurs en haut des cols de montagne. C'était assez bien vu.
C'est bien pour rouler
ouais,
derrière. La télévision va bien sûr renforcer le pouvoir de la publicité.
Oui, et vous allez voir, il en fallait très peu pour faire des coups de pub. Hein. En 1970, la Coupe du Monde de foot a lieu au Mexique. La star, c'est le Brésilien Pelé. Et Pelé et la marque Puma vont monter un coup d'enfer. Juste avant le début d'un match, Pelé fait signe à l'arbitre qu'il doit faire ses lacets. Il se baisse, il fait ses lacets et ça dure 30 secondes. L'arbitre s'agace, mais pendant ce temps-là, toutes les caméras du monde entier sont braquées sur la chaussure de Pelé. Évidemment, une chaussure Puma, c'était une énorme pub, presque gratuite.
Ouais, sauf que rien n'a égalé Nike.
Rien n'a égalé Nike. Alors Nike, évidemment, ils sont imbattables puisqu'ils ont fait le plus beau coup marketing de l'histoire avec Michael Jordan en 1984. Michael Jordan joue déjà au Chicago Bulls et un jour, il arrive sur le terrain avec une nouvelle paire de Nike, les Nike Airship qui vont bientôt devenir les Air Jordan. Problème, ces chaussures ne respectaient pas les codes couleurs imposés par la NBA. Du coup, la Ligue fait un signalement, mais Jordan s'en fiche complètement. Il passe outre, il les porte à nouveau. Et là, Nike a l'idée du siècle, il commercialise la chaussure en la présentant comme la basket interdite. Évidemment, le public se jette dessus, hein, on adore ce qui est interdit. Jordan, dans le même temps, devient un symbole de liberté, de courage. Il a dit non à la Ligue. Donc, en réalité, Apolline, le sport tel qu'on l'imagine, avec ses sportifs stars, ses shows à l'américaine, n'existerait tout simplement pas sans la publicité.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, 7h25, Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Bonjour. Arnaud, dans le face-à-face tout à l'heure, c'est un général. Le général Pierre de Villiers, l'ancien chef d'état-major des armées.
Oui, parce que chez les De Villiers, c'est comme chez les Village People. Ouais. Il y a Philippe, l'éditorialiste, Emmanuel, le chef d'entreprise, et ce matin, Pierre, le militaire. Il y a aussi Basilio De Villiers, le cuir moustache, j'aime faire de la moto torse nu, mais lui il est un peu moins connu dans la famille. C'est dommage, il gagne à être connu. Pierre De Villiers publie un livre.
Aucun sens.
Ouais, pourquoi pas. Pierre De Villiers publie un livre pour le succès des armes de la France. Ses précédents ouvrages se sont plutôt bien vendus. Il doit être content, son frère Philippe, qui vient de sortir Populicide après Francocide, et bing, c'est la famille qui vient lui faire de la concurrence juste avant Noël en plus. Ils écrivent énormément dans cette famille. Tiens, on va faire un petit jeu pour rigoler. Ce livre est-il écrit par un De Villiers, Pierre de Philippe, ou Pierre ou Philippe, ou est-ce un roman d'espionnage érotique type SAS? C'est pas si facile que ça, vous êtes prêts? Attention, le complot du Caire.
De Villiers,
SAS. La chienne qui miaule.
Ah, SAS.
Philippe De Villiers.
Mais non,
si.
Non.
Comment faire avaler des serpents à sonnette?
SAS.
Philippe De Villiers.
Oh non.
Parole d'honneur.
Oh bah, Pierre De Villiers.
Pierre De Villiers. La machination d'Amsterdam.
SAS.
Philippe De Villiers.
Oh.
Les pendus de Bagdad.
Mais attendez, il s'appelle pas Villiers, le type qui est
écrit. Si, Gérard De Villiers. Ah oui, j'ai même pas pensé. Non, je pensais que c'était SAS. J'ai jamais pas pensé. Alors, les pendus de Bagdad.
C'est forcément
Gérard De Villiers. Les turqueries du grand Mamamouchi.
Mais non, ça c'est un SAS.
C'est Philippe. Philippe De Villiers. Les mosquées de Roissy.
Gérard.
Philippe. Philippe De Villiers. C'était pas si simple. C'était pas si simple. C'est pas si simple. Alors le général craint une offensive de la Russie envers la France, y compris sur le terrain de l'influence et de l'information. Bon, alors que la Russie cherche à influencer la politique française, c'est pas un truc qu'il a appris en faisant des réunions dans des bunkers top secrets. Il a juste eu à déjeuner avec son frère Philippe qui lui a dit « Tiens, je te présente Xenia Féodorova, c'est ma nouvelle consoeur à CNews. » Ça fait du bien de travailler avec des gens qui ont un point de vue objectif sur l'agression ukrainienne envers la glorieuse et pacifique Russie. Tu veux lire mon dernier livre, Russicide? Et là, ouais, ça progresse vraiment l'influence russe. Allez, à tout à l'heure.
Merci Arnaud. Dans un instant, la météo et le journal. Vous êtes bien sur RMC, 7h28. 7h30, gris et doux, Géraldine?
Oh oui, très très gris, beaucoup de brouillard ce matin. Il faut aller en montagne pour trouver un peu de soleil. Cet après-midi, on aura aussi du soleil vers le sud-ouest jusqu'au massif central. Et entre les Alpes et la Corse, ce sera lumineux. Ailleurs, donc, grisaille toute la journée, avec des températures certes en baisse, mais ça reste doux. Cet après-midi, il fera 10 à Lille, on aura 11 à Paris, 13 à Brest, à Lyon, 15 à Bordeaux, 16 à Marseille, 19 pour Biarritz.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La DZ Mafia a-t-elle réussi à infiltrer le tribunal judiciaire de Marseille à l'heure où le gouvernement intensifie sa lutte contre le narcotrafic? Deux agentes viennent d'être mises en examen pour corruption. L'argent liquide en voie de disparition, à moins que la Poste et les commerçants ne viennent à la rescousse des villes désertées par les banques. C'est la proposition des socialistes examinée aujourd'hui à l'Assemblée. Et puis démonstration de force des Bleus du Hand, qualifiés pour les demi-finale du mondial après leur victoire hier contre le Danemark.
L'Élysée organise ce matin une nouvelle réunion sur la lutte contre le narcotrafic.
C'est la deuxième depuis le meurtre, il y a près d'un mois, de Mehdi Kessassi à Marseille, où doit se rendre Emmanuel Macron la semaine prochaine. Et la question de la corruption risque de s'inviter dans les débats avec cette affaire et la mise en examen de deux adjointes administratives du tribunal judiciaire de Marseille, Anna Jojard.
Oui, la première est une femme âgée de 26 ans, soupçonnée d'avoir consulté dans le cadre de ses fonctions des fichiers à plusieurs reprises entre janvier 2023 et juillet 2025, puis d'avoir transmis les informations à son compagnon impliqué dans des affaires de trafic de drogue. La deuxième, âgée de 24 ans, aurait consulté à une cinquantaine de reprises des fichiers en lien avec des affaires d'assassinat entre 2024 et 2025. Elle aurait ensuite divulgué des informations à son ex-petite amie considérée comme un proche de la DZ Mafia. En échange d'argent, de cadeaux et de voyages. Les deux employés du tribunal ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. L'ex-petite amie, lui aussi, est mise en examen pour corruption active, recel de fichiers et violation du secret de l'enquête.
Et juste après votre journal, Élise, je recevrai le sénateur du Rhône, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire précisément sur le narcotrafic.
À Paris, c'est la lutte contre les violences sexuelles envers les enfants qui occupe la justice. RMC vous le révélait dès hier, après la multiplication de signalements contre des animateurs périscolaires. La procureure de Paris a reçu mardi soir une vingtaine de parents d'élèves, des parents qui avaient porté plainte et qui n'avaient jusque-là jamais été entendus. Julie Brou.
Depuis des mois, Luc attendait des réponses. Lui qui a porté plainte à la rentrée scolaire, soupçonnant un animateur d'avoir agressé sexuellement sa petite fille en classe de maternelle. Pour la première fois, j'ai été rassuré sur l'avancée de l'enquête en cours, confie le père de famille, après avoir été reçu pendant près de 3 heures par la procureure de Paris.
Ils nous ont expliqué dans un format général comment ils travaillaient. Et ils nous ont très clairement dit, dès qu'on va pouvoir, on va déclencher les gardes à vue. Et nous, ce qu'on vise, c'est le déferrement et la condamnation. Et qu'on s'intéresse à toutes les responsabilités.
Identifier et poursuivre tous les responsables, y compris la mairie de Paris, qui l'accuse d'avoir pris trop de temps avant de suspendre les animateurs mis en cause et de saisir la justice.
On leur a dit, pourquoi ils mettent du temps pour vous saisir? Ça décale d'autant plus la prise en charge. Il y a un problème sur la gestion. Et la réponse de madame la procureure était très claire. Je vais m'intéresser à cette temporalité, j'en tirerai les conséquences. En fait, on avait besoin de l'entendre, ça. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ça se reproduise pas. Hein.
Les parents d'élèves réfléchissent désormais à créer un collectif qui permettrait à tous de se constituer partie civile en leur nom s'il devait y avoir un procès à l'issue des enquêtes en cours.
Il est 7h34 sur RMC et on connaît enfin la cause de l'épidémie de troubles digestifs qui a frappé le collège du Solaire près de Perpignan. On vous en parlait en début de semaine dans ce journal. Près de 400 personnes ont été touchées, 13 adolescents hospitalisés. La faute donc à un norovirus, Martin Bourdin.
Oui, ce norovirus a été retrouvé dans les prélèvements effectués sur les enfants hospitalisés vendredi dernier. Un virus extrêmement contagieux à l'origine de gastro-entérite aiguë quand on le contracte, vomissement, diarrhée et dont on guérit en général rapidement sans avoir besoin de traitement. La source de la contamination, elle, est toujours inconnue. Une personne contaminée peut transmettre le virus, par exemple, en touchant des aliments, en touchant des boissons. Il voyage aussi, ce virus, sur des surfaces contaminées. Voilà pourquoi d'autres analyses ont été menées sur les fontaines à eau de la cantine du collège et sur les plateaux repas témoins servis à la cantine jeudi et vendredi la semaine dernière.
C'est un objet et un service qui se fait de plus en plus rare. Les distributeurs de billets disparaissent de nos villes, moins 10 000 depuis 2018, sauf que les Français sont encore attachés aux espèces. C'est le sens de la proposition de loi du Parti Socialiste examinée aujourd'hui à l'Assemblée. Le texte prévoit notamment de développer le cashback qui permet d'obtenir du liquide directement chez les commerçants, mais aussi de confier à la Poste la pose et la gestion de ces distributeurs. Des mesures attendues, notamment dans les petits villages. Illustration en Gironde avec Pierre Bourges. Pour RMC.
À Blasimont, commune de 900 habitants, pas de distributeur de billets ici, au grand regret des clients de l'épicerie du village.
Vous voyez, comme là, aujourd'hui, j'en ai besoin de liquide. Il faut que j'aille à Sauveterre, c'est à 10 minutes en voiture.
Ça fait dépenser de l'argent pour rien. Essence pour rien, pour chercher de l'argent. Quoi.
Dans le magasin, 60% des règlements se font désormais par carte, explique son patron.
Forcément, il va y avoir une recrudescence des paiements par carte. Hein. De toute façon, c'est vers quoi on se profile. Hein. C'est vrai que bon, il va y avoir des frais qui vont s'imposer à ça.
Parmi les solutions, il existe le retrait d'argent en magasin chez les commerçants volontaires. 60€ maximum par jour et par personne. Plafond que veut relever le PS dans sa proposition de loi à 150€. Mais cela ne convainc pas Christine Gillard, patronne d'un tabac en Gironde qui participe à ce dispositif.
C'est la bonne idée, mais il faudra que l'on ait suffisamment d'espèces. Je ne suis pas sûre qu'on puisse sortir 150€ le matin de notre caisse. Ce sera aléatoire. Il y a des clients à qui on va refuser.
Le PS veut aussi faire en sorte que la Poste s'occupe d'installer des distributeurs là où il en manque, même là où il n'y a pas d'agence postale.
7h36, elles l'ont fait. Les Bleus du handball se sont qualifiés en demi-finale du Mondial.
En s'imposant 31-26 face au Danemark qui les avait privés de la finale de l'Euro l'an dernier, et c'est d'autant plus une performance que 5 joueuses étaient forfaits. La capitaine Tamara Horacek savoure.
C'est plaisant d'être en demi. On sait d'où on vient, on sait aussi qu'il y a beaucoup de nouvelles. Ça fait plaisir que tout le monde puisse goûter de savoir ce que c'est de gagner un quart de finale. C'est aussi le match bascule, soit on réussit, soit on n'a pas réussi notre mondial. Je pense que là, on a été sérieuse, on a été concentrée. On est prête pour aller plus loin possible maintenant. Là, pour le moment, on va fêter un peu et récupérer pour... vous entendez, ça arrive, avant de se lancer sur la vidéo de l'Allemagne.
Les Bleus qui affronteront l'Allemagne demain à 17h45. En football, le PSG n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 0-0 hier soir à Bilbao. Les Parisiens sont 3e au classement et déjà assurés de disputer au moins les barrages.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Chantilly.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori, c'est le numéro 7, Don't Shut Me Down. L'outsider, c'est le 9, Cosmic Front.
C'était le journal des Lys d'Angean, 7h37. Je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, on joue. Et comme chaque matin, c'est l'heure C'est l'heure effectivement de vous inscrire pour pouvoir ouvrir avec moi le calendrier de l'Avent. Vous envoyez Noël au 732-16. Noël au 732-16. Il y a des cadeaux inouïs, franchement, qu'on vous offre tous les jours et c'est un immense plaisir. Vous venez gagner des MacBook Air, des vacances, des iPhones, des PlayStation 5 ou des Switch 2 avec Micromania Zing. Pour ouvrir le calendrier de l'Avent, vous envoyez donc Noël au 732-16. Noël au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Au 32-16, vous êtes nombreux à réagir à cette question de la revalorisation ou non des restaurants. On va moins au resto. Pourquoi, Michel ? Bonjour, Michel.
Et bonjour à toute l'équipe.
Et bonjour, Michel. Vous êtes retraité dans les Alpes-Maritimes.
Exactement. Depuis 4 ans, je suis retraité.
Depuis 4 ans. Alors voilà, j'allais le dire. Heureux retraité. Est-ce que vous allez toujours autant au resto ?
Alors, pas du tout.
Non ?
Non. Non.
Pourquoi?
Moi, je suis pour revaloriser les restos, hein, parce que ouais. Tous les food trucks, les machins, les trucs, c'est rigolo un petit peu, mais voilà, on bouffe mal, quoi. Moi, j'habite dans un village où il y a deux restaurateurs qui font tout maison. Mmh. J'ai bossé aussi là-dedans, hein, en vacataire. Sauf qu'il n'y a plus le podium.
Ouais. Oui, en fait, pour vous, c'est parce que vous n'avez pas assez de sous.
Bien sûr. Mmh. Moi, avant, j'allais 2-3 fois par semaine, tout en prenant un plat du jour, hein, on est bien d'accord, je veux dire, sans faire d'excès ni quoi.
Oui, puis ça change la vie quand même, hein, d'aller se prendre un plat du jour, de partager, d'avoir un bon moment.
Exactement. Et là, je vous dis, si j'y vais une fois par mois, c'est le bout du monde.
Ah oui, carrément, ça a totalement changé.
Oui. Pourtant, j'ai une retraite qui est, entre guillemets, correcte par rapport à des gens qui touchent 1400 balles par mois. Moi, je touche 1800 balles par mois, hein, donc...
Okay.
C'est sympa, enfin c'est correct, mais bon, j'habite seul, hein. Je suis divorcé, donc j'ai tout à charge.
Oui, donc vous avez toutes les charges que vous ne pouvez pas partager, quoi, que vous ne pouvez pas payer à deux. Franchement, Michel, c'est un plaisir de vous accueillir en tout cas ce matin. Alors, à défaut d'aller au restaurant, vous êtes dans la convivialité d'Apolline Matin. Et ça, c'est déjà pas mal. Michel, merci à vous, très très belle journée. Vous nous appelez au 32-16, il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
La corruption, on l'a appris encore dans le journal des listes d'Anjean à l'instant, deux adjointes administratives du tribunal judiciaire de Marseille qui en réalité aidaient en secret la DZ Mafia. Et alors que ces informations sur les trafiquants de drogue continuent à sortir, il y a à nouveau une réunion aujourd'hui pour tenter de lancer un véritable plan de lutte contre le narcotrafic. Bonjour Étienne Blanc. Vous êtes sénateur LR, vous avez été rapporteur de la commission d'enquête sur le narcotrafic. Je vais vous poser la question très clairement. Est-ce que la guerre contre le narcotrafic est en train d'être perdue? Et comment pourrait-on faire pour tenter d'inverser les choses? Vous nous le dites dans un instant, 7h40.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Il y a un mois, c'était le meurtre du frère d'Amine Kessassi en plein jour à Marseille. Il y a eu une sorte de réaction globale du pays, des réunions et puis, nouvelle réunion à nouveau aujourd'hui. L'État sera-t-il à la hauteur? Bonjour Étienne Blanc.
Bonjour.
Vous êtes sénateur LR. Vous avez été le rapporteur de la commission d'enquête sur le narcotrafic et vous êtes le co-auteur de la dernière loi sur le narcotrafic promulguée en juin dernier. Une réunion de plus aujourd'hui, présidée par Emmanuel Macron, qui d'ailleurs mardi prochain se rendra à Marseille. Est-ce qu'on se donne les moyens de lutter?
Moi, je ne suis pas sûr que la présence du président de la République soit essentielle. Ce qui est important, c'est le renforcement des moyens du parquet, les renforcements des moyens de la police, et puis surtout les renforcements de tous les outils qui nous permettent de saisir l'argent. C'est le narcotrafic, il n'a qu'un seul objectif, c'est de gagner de l'argent. Et quand vous tapez au portefeuille, là, vous marquez des points. On saisit, c'est important. Observez d'ailleurs que plus on saisit, et ça n'a aucune incidence sur le prix de la cocaïne et ça n'a aucune incidence sur les délais de livraison. C'est-à-dire que les quantités qui sont stockées sont absolument gigantesques.
Si on en enlève, on a l'impression de vider la mer avec la petite cuillère.
Exactement. Donc ce qui fait mal aux narcotrafiquants, c'est la saisie des avoirs illégalement acquis.
Les avoirs considérables. En entrant dans ce studio, je ne dévoile rien. Vous m'avez dit, lorsque j'ai commencé cette enquête, cette commission d'enquête sur le narcotrafic, on estimait à 6 milliards globalement le chiffre d'affaires du narcotrafic en France. Il dit, au moment où je termine cette commission d'enquête, c'est 8 milliards aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est ce que disent un certain nombre d'experts, on est aux environs de 8 milliards.
C'est quasiment 1 milliard de plus par an.
Ça veut dire que c'est une vague qui est en train de submerger la France. C'est ce que nous avions écrit avec mon collègue Jérôme Durin. Il y a un tsunami blanc et c'est la démonstration qui en est faite aujourd'hui.
Est-ce qu'aujourd'hui, les opérations contre les points de deal, c'est notamment ce qui est renforcé à nouveau depuis 24 heures, on sait qu'il y a 1500 policiers qui ont été déployés depuis mardi, 15 points de deal qui ont été démantelés, est-ce qu'ils se réinstallent juste après ou est-ce que vraiment ça fait mal?
C'est utile. Ne serait-ce que pour les habitants d'un quartier, quand vous avez un point de deal en bas de chez vous et qu'il est délocalisé, vous êtes content. Voilà. Mais il se reconstitue ailleurs. Ou alors, s'il ne se reconstitue pas physiquement, il se reconstitue sur les réseaux. Vous commandez maintenant de la drogue sur les réseaux.
L'argent tapé au portefeuille, comme vous dites, ça veut dire qu'il faudrait saisir les avoirs, tracer le chemin de l'argent, y compris aller les chercher là où il dort désormais, c'est-à-dire à Dubaï ou de l'autre côté de la Méditerranée?
Bien sûr, il faut des accords. Moi, quand je suis allé à Dubaï la dernière fois, et j'ai rencontré un magistrat de liaison. On obtient maintenant des résultats avec Dubaï. Hein, on a des extraditions et on a des saisies. On vient de saisir un nombre d'appartements très important. Il faut surtout renforcer les moyens de TRACFIN. Hein, TRACFIN, c'est un outil qui vous permet de rentrer dans les réseaux. Ils sont excellents.
TRAC, la finance, c'est littéralement
c'est
cela.
Ça. Donc il y a une obligation quand vous êtes notaire, quand vous êtes agent immobilier, quand vous avez une transaction. Si vous avez une suspicion, vous saisissez TRACFIN. Ils sont capables de remonter la filière. Mais vous savez, Apolline de Malherbe, ce trafic de drogue, il dure depuis les années 60. Donc au fil du temps, les narcotrafiquants, ils ont acheté des entreprises, ils ont des hôtels, ils ont des entreprises de construction. Et avec ça, ils peuvent blanchir. Hein, ils ont des lessiveuses qui sont extrêmement puissantes.
Une question qui revient, c'est la question de la corruption. On a l'impression que jusqu'à présent, c'était assez tabou, la question de la corruption, notamment dans l'administration pénitentiaire, judiciaire, dans la police. On apprend ce matin que deux adjointes administratives du tribunal judiciaire de Marseille ont été mises en examen hier, soupçonnées d'avoir consulté des fichiers, transmis des informations à un proche de la DZ Mafia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri.
Bien sûr. C'est, il y a une définition qu'il faut faire. C'est un narco-État, qu'est-ce que c'est? Il y a des narco-états sur la planète, hein, au Mexique. Les Mexicains le reconnaissent, d'ailleurs. Ils disent, nous, on est devenu un narco-état. Il y a une corruption qui est partout, dans les prisons, les juges, l'armée, la police, etc. Un narco-état, c'est un pays dans lequel les trafiquants ont mis la main ou une influence considérable sur la puissance publique. Mais attention, c'est ce qui est en train de se produire en France.
On est en train de basculer vers un narco-État.
Le terme est très très fort, mais moi je pense qu'en politique, il faut dire les choses clairement, parfois avec des termes qui sont des termes puissants. Il faut dire attention, si on ne fait rien, il y a un risque pour la solidité de nos institutions. Regardez dans la commission d'enquête, nous avions auditionné deux inspecteurs généraux de l'administration. On leur a dit, est-ce qu'il y a de la corruption? Ils se regardaient, ils disaient, écoutez, non, c'est pas quelque chose qu'on a repéré, etc. On avait été, mais abasourdis.
C'était quoi? C'était de la naïveté ou c'était du refus de voir?
Je pense que l'administration n'était pas prête. Voilà. Ils n'ont pas vu arriver ce phénomène-là. C'est vrai dans l'institution judiciaire et dans les prisons. C'est aussi vrai dans la gendarmerie et la police. Les consultations de fichiers.
Mais je me souviens, pardon, d'avoir reçu ici même le procureur de la République de Marseille qui avait osé dire qu'il y avait des soupçons de corruption. Il s'était fait taper sur les doigts par le ministre de la Justice de l'époque, qui était Éric Dupond-Moretti, qui avait dit que c'était extrêmement choquant d'avoir dit cela. Qui avait raison?
C'était M. Bessonne, évidemment. C'est en le politique, il y a un art en politique.
Mais ça veut dire que les politiques refusaient de voir. Mais il avait même été sanctionné pour avoir dit cela.
Bien sûr, et moi j'avais d'ailleurs interrogé le ministre dans l'hémicycle, au Sénat. Mais enfin, comment se fait-il que vous interrogiez un témoin que nous interrogeons et que vous critiquiez les déclarations du témoin alors qu'il avait déposé sous serment? Mais l'art de la politique, c'est parfois de mettre la poussière sous le tapis. Et là, on en a un très très bel exemple.
Très bel exemple qui avait été effectivement sur cette question de la corruption. D'un mot, vous vous dites qu'il est encore temps d'échapper à cet effondrement de l'État en faveur
politique,
d'un...
En politique, il n'est jamais trop tard. C'est une question de volonté, c'est une question de moyens, c'est une question de détermination. Il faut que le droit s'adapte à la gravité de la situation.
Merci beaucoup. Merci.
Merci.
Plan, justement, de votre franchise ce matin, sénateur LR, rapporteur de la commission d'enquête sur le narcotrafic. Il est 7h50 sur RMC et c'est l'heure de la Voix de Gauche. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Apolline.
Cécile, l'aide sociale à l'enfance dans la tourmente après une nouvelle horrible affaire. On en parlait hier, cet enfant de 8 ans tondu par ses propres éducateurs qui sont censés justement le protéger. Il faut agir.
Oui, il faut agir. Il faut aller vers la fermeture des foyers.
La fermeture des foyers?
Oui, je pense. Et d'ailleurs, tous les rapports le montrent, que les enfants sont mieux accueillis dans des familles d'accueil formées, encadrées. Mais en tout cas, pour les tout petits, moins de 5 ans, il ne faut plus d'enfants en foyer.
Et vous nous le dites dans un instant, 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche avec Cécile Duflo. Mais d'abord le bonus, Mathieu, ce raz-de-marée K-pop qui se poursuit.
Et plus précisément, l'engouement des plus jeunes pour le phénomène K-pop Demon Hunters. Révélation 2025 pour Time Magazine. Petit rappel d'abord pour ceux qui découvrent, un film d'animation sur Netflix où trois stars de K-pop chassent des démons. Mélange de concerts, de combats, d'humour, carton absolu, les journalistes de Time soulignent l'impact mondial pour un film qui s'impose dans des territoires où la K-pop n'est pas dominante. Record de visionnage sur Netflix, même la plateforme n'avait pas vu venir le succès. Il faut croire, puisque pour Noël, par exemple, le merchandising et les outils promo ne sont pas prêts. Et puis une suite désormais prévue pour 2029, mais au-delà du film, bien sûr, les chansons, les titres du film qui caracolent en tête des classements. Près de 900 millions de vues YouTube pour la chanson principale, Golden.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Il est 7h53, c'est l'heure de la voix de gauche. Cécile Duflo, bonjour Cécile. Une inspection est en cours depuis hier au foyer où cet enfant de 8 ans a été tondu par ses éducateurs. Un enfant placé par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Pour vous Cécile, c'est un scandale de plus pour l'État qui n'assure pas lui sa mission. Vous avez une proposition pour que ça change?
Oui, une proposition qui est fondée sur les travaux à la fois des scientifiques et puis les travaux de la commission parlementaire, puisqu'il se fait à l'étranger. Il faut fermer les foyers et il ne faut plus accueillir des petits-enfants de moins de 5 ans et en particulier les 0-3 ans dans des pouponnières, ce n'est pas possible. Dans d'autres pays, en Suède par exemple, c'est 70% des accueils qui se font en famille d'accueil. Alors bien sûr, il y a des problèmes aussi possiblement dans les familles d'accueil, donc on peut mettre les moyens pour encadrer, pour former, pour permettre à des gens qui travaillent de pouvoir être famille d'accueil, ce qui n'est pas possible aujourd'hui en France. Mais le fonctionnement en foyer, ça place les enfants dans des situations dramatiques. On n'arrête pas de dénoncer les scandales. Maintenant, il faut une concorde nationale pour faire une révolution de l'aide sociale à l'enfance en France.
Une révolution de l'aide sociale à l'enfance. Nous sommes face à un scandale silencieux.
Oui, un scandale silencieux parce qu'à chaque fois, en fait, on raconte une nouvelle histoire, on sait ce qui s'est passé. On a eu ce documentaire sur la prostitution des très jeunes filles, des enfants de 11 ans, enfin, qui sont placés dans des foyers où les proxénètes viennent les chercher, alors que c'est déjà des enfants qui ont vécu des histoires familiales très compliquées. Donc, on est dans un moment où on va de scandale en scandale, alors qu'il faut s'attaquer à la racine. Il y a un travail très complet qui a été fait par une commission d'enquête parlementaire avec des parlementaires de tous les bords. Ils ont voté un budget de la sécurité sociale. On pourrait imaginer que dans l'année et demie qui viennent, il y a une concorde nationale pour réformer l'aide sociale à l'enfance.
Comment on en est arrivé là?
Alors, je pense qu'il y a un effet quand même qui est la décentralisation. Depuis 1982, c'est les départements qui ont en charge l'aide sociale à l'enfance. Du coup, il peut y avoir des politiques différentes de département en département, pas forcément de supervision. Parmi les propositions, il y a le fait qu'il puisse y avoir un ordre d'inspection indépendant qui puisse superviser ces politiques. Mais aussi, il y a un problème de financement. Parce que comme les départements, leurs ressources sont très liées au marché immobilier, les départements qui perdent de l'argent, parce qu'il y a moins de ventes immobilières par exemple, vont avoir du mal à boucler leur budget pour les enfants. Ça marche pas en fait, il y a quelque chose qui va pas.
Et puis il y a une question de contrôle, ce qui est quand même frappant dans cette affaire à nouveau, c'est que c'était su, cette vidéo de cet enfant tondu, ça a été partagé sur une boucle WhatsApp, ça a été su dès février. Comment est-ce que c'est possible cette opacité?
D'abord, ce qui est intéressant, c'est que sur cette boucle WhatsApp, il y a aussi des éducateurs qui disent, si c'est pas une blague, c'est très très grave. Donc il y a d'excellents professionnels aussi dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance, et parmi ceux qui appellent à sa réforme, à la question des moyens, à la question d'une inspection indépendante, il y a des gens qui travaillent dans ce secteur. Moi, je veux rendre hommage à des éducateurs qui font leur travail et qui essayent de faire du mieux possible pour ces enfants. Mais le système en lui-même dysfonctionne, il a tendance à étouffer. Le vrai sujet, c'est que les inspections, elles sont annoncées à l'avance. Donc évidemment, c'est pas une vraie
inspection. Forcément, on peut préparer, évidemment.
Et la culture de l'organisation, c'est plutôt d'étouffer, même quand il y a des enfants qui signalent, même quand il y a des éducateurs qui signalent des violences entre enfants, c'est les éducateurs parfois qui sont sanctionnés. Donc ça ne fonctionne plus. Il faut absolument faire changer les choses.
Merci Cécile Duflo, la voix de gauche sur RMC. Vous appelez carrément à fermer ces foyers pour les plus jeunes enfants. 7h56, on se retrouve dans un instant sur RMC avec la météo, avec le journal. À la une du journal de 8h, payer ses cadeaux de Noël. Jusqu'en avril prochain peut-être, bah oui. De plus en plus de Français utilisent le paiement fractionné. Reportage dès le début du journal. Côté de la météo, le temps est calme, mais souvent nuageux. Et puis on va parler économie avec Manu Le Chypre. Bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Les mutuelles payeront l'an prochain une taxe d'1 milliard d'euros. Faut s'inquiéter j'imagine, pour nous.
Ben oui, parce que qui va payer, à votre avis, au bout du compte? Pas forcément tout de suite, mais c'est nous.
Merci Manu, on vous retrouve dans un instant, il est 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et à tout moment en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes.
Il est 8h, très belle journée. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La magie de Noël ce matin, enfin la magie. 4 Français sur 10 s'endettent pour financer les achats et certains ont même recours à des crédits qu'ils traînent jusqu'au printemps. C'est une enquête qui nous apprend ça. Ça non plus, c'est pas un cadeau. La grippe, toutes les régions, sauf la Corse, franchissent désormais le seuil épidémique. Et décision redoutée. Avant les fêtes, c'est aujourd'hui que les 700 salariés de Brandt seront fixés sur leur sort.
Constat édifiant ce matin sur les achats de Noël.
Oui, plus de 4 Français sur 10 s'endettent et un peu plus d'un sur 10 ont carrément recours à des crédits pour financer donc ces achats de Noël. C'est une enquête pour un groupe de courtage qui nous apprend ça ce matin. Des Français qui s'endettent pour faire des cadeaux et qui finissent par les payer au printemps comme un boulet qu'on traîne pendant des mois. La preuve, écoutez à Rennes avec le correspondant d'RMC, Martin Lange.
Un sac de cadeaux dans chaque main, Alexis se demande comment il va réussir à payer ses courses de Noël.
Un peu la galère tous les ans, je suis déjà quasiment dans le rouge, j'ai à peine commencé à faire les cadeaux. C'est une grosse dépense pour moi, je fais des énormes cadeaux à tout le monde. Je fais pas un emprunt non plus, mais c'est vrai que c'est un petit poids que je me traîne pendant quelques semaines, quelques mois. Ouais.
Pour lui, cela va se traduire par un découvert et des frais bancaires. Pauline est-elle aussi une grande dépensière au mois de décembre?
On va dire que heureusement que j'ai des sous de côté. Je vais aller chercher un peu d'épargne pour combler la fin du mois, ça c'est sûr.
Charlotte, elle, a une autre solution.
Je fais pas mal de paiements plusieurs fois. J'avoue que c'est mon petit plus parfois quand je me dis que ça va être compliqué. Ça peut vite être un engrenage, mais moi je sais que je fais hyper gaffe par contre aux mensualités et tout ça. Instinctivement, ça fait moins mal de se dire que tu le payes en plusieurs fois et ça permet de faire des plus gros cadeaux.
Une tendance confirmée par Mathis qui vend des téléphones portables dans le centre-ville de Rennes.
Nous, le paiement en plusieurs fois, c'est sûr que c'est vraiment une force de vente aujourd'hui. Si acheter un téléphone, c'est un budget. En période de fête de Noël, nous on a beaucoup plus justement de cette demande de facilité de paiement. On est presque sur un paiement sur deux.
Les achats en 4 ou 5 fois sans frais, dont le dernier versement interviendra en mars ou en avril.
Alors ça, c'est le cadeau que personne ne veut sous le sapin. L'épidémie de grippe n'en finit plus de gagner du terrain. Romain Houg pour RMC, on a les tout derniers chiffres ce matin de Santé publique France. Désormais, donc, toutes les régions en dehors de la Corse ont franchi le seuil épidémique et la grippe, cette année, s'annonce sévère.
Oui, la faute à un variant, le variant K, une mutation du virus de la grippe qui est en passe de devenir majoritaire dans le pays. Cette mutation est en elle-même plus transmissible et ce, alors que l'épidémie est déjà partie très fort sur une dynamique comparable à celle de l'an dernier qui avait été particulièrement sévère avec plus de 17 000 décès. Davantage de personnes pourraient donc être contaminées avec davantage de formes plus graves en bout de chaîne et donc davantage de morts. D'autant que la plupart des personnes âgées plus fragiles ont un système immunitaire moins armé contre cette variante du virus. Le point positif, c'est que la campagne de vaccination a déjà bien commencé avec 11 millions de doses administrées, soit 17% de plus par rapport à l'année dernière. Même si ce variant K nous amène à nuancer tout ça, le vaccin de cette année a été fabriqué au printemps avant que ce variant ne débarque. Ces mutations n'ont donc pas été prises en compte et le vaccin pourrait s'avérer un peu moins efficace contre cette souche du virus.
Une nouvelle réunion sur le narcotrafic aujourd'hui à l'Élysée. Elle sera présidée par Emmanuel Macron qui prévoit de se rendre à Marseille la semaine prochaine. Décision redoutée juste avant les fêtes. L'avenir de Brandt va se jouer aujourd'hui au tribunal de Nanterre, fleuron de l'électroménager. En redressement judiciaire, les pouvoirs publics soutiennent l'offre officiellement de reprise qui a été faite par les salariés via une SCOP. Elle sauverait 300 des 750 emplois et les deux sites près d'Orléans et de Vendôme. Tiens, justement, sur le site de Vendôme, et vous allez tout comprendre avec Lou Garnier sur place pour RMC, le scénario d'un arrêt d'activité est redouté.
Devant l'usine, dont la production est à l'arrêt depuis plusieurs semaines, les salariés comme Karine redoutent l'avenir.
J'ai 3 enfants à charge. Quand on a fait 29 ans là-dedans, on a l'impression d'être perdu. Ça fait mal, hein. Surtout qu'on s'y attendait pas. La colère, la haine, la rage, la tristesse, il y a de tout. Tout est mélangé, là.
Même si le plan de reprise est validé, Thibault sait que son poste sera supprimé. Il tient à être auprès de ses collègues.
C'est comme une deuxième famille. On a fait toute la carrière ici pour les 3/4.
Ce père de famille se dit dégoûté de la situation.
2 mois de redressement judiciaire, ça laisse pas la porte ouverte à beaucoup de repreneurs. Ça aurait pu être fait, je pense, un peu plus proprement.
Dans l'usine, rien n'a bougé. Devant le stock de plaques de cuisson, Lionel Renault, représentant du personnel du site de Vendôme, redoute une liquidation du groupe. Une tragédie pour l'industrie française, selon lui.
Montrer nos produits
qui vont peut-être disparaître. Moi, ça me fait mal au cœur. Hein. On va essayer de sauver notre outil industriel pour le futur.
Alors tous attendent la décision du tribunal. Si le plan de reprise est accepté, 55 des 93 salariés du site pourraient conserver leur emploi.
8h05, les restaurateurs seront à Bercy aujourd'hui.
Oui, reçu par le ministre du Commerce, Serge Papin, qui va leur annoncer ce qu'on vous dévoile depuis très tôt ce matin sur RMC, à savoir un assouplissement des critères du label Fait Maison. Jugé trop restrictif. Alors désormais, il sera possible de l'avoir ce label même en utilisant des œufs en bidon par exemple, avec le blanc et le jaune déjà séparés du Fait Maison, donc sans casser les œufs. Mais c'est une bonne nouvelle pour Alain Fontaine, représentant des restaurateurs ce matin sur RMC.
Cette mention Fait Maison, qui a été mise en place en 2014, était extrêmement confuse pour les consommateurs et pour les restaurateurs. C'est-à-dire que quand les restaurateurs se mettaient à dire « je mets Fait Maison », ils prenaient des risques énormes en termes d'un contrôle. Et le consommateur, lui, il voyait pas trop. Alors, est-ce que cette marmite avec la casserole dessus, c'était toute la carte ou seulement les plats? Donc, il fallait vraiment assouplir les règles et faire un Fait Maison heureux. Un Fait Maison qui soit plus accessible aux consommateurs et plus accessible aux restaurateurs.
Les agriculteurs sont en colère en Ariège, où ils manifestent depuis hier soir devant une ferme où 200 vaches doivent être abattues après un seul cas de dermatose nodulaire. Vous savez que c'est la maladie qui touche les élevages en ce moment. Il y avait eu la même chose dans le Doubs au début du mois. Et donc depuis hier soir, environ 400 éleveurs comme Armand, que vous allez entendre, de la coordination rurale, sont tout autour de cette ferme pour empêcher les vétérinaires d'y accéder.
Nous sommes là vraiment pour aider cette famille à survivre et pour éviter que ce troupeau soit abattu. Élever une vache pendant 5, 6, 7 ans, 10 ans, c'est quelque chose d'attachant. Et regarde, et voir son troupeau chargé dans des camions, c'est déchirant. Nous sommes là vraiment pour éviter cela. Et nous irons jusqu'au bout et nous ferons aucune concession et il n'y aura aucune négociation avec les pouvoirs publics.
Réponse aujourd'hui à Toulouse, où la cour administrative d'appel va se pencher sur le chantier de la 69. La 69 entre Castres et Toulouse, le rapporteur public dont l'avis est généralement suivi est favorable à la reprise formellement du chantier. Le foot, après la Ligue des Champions et le match nul de Paris, 0-0 hier soir à Bilbao. Il y aura 4 clubs français ce soir dans les autres Coupes d'Europe. Grande soirée foot en perspective sur RMC, plus que jamais d'ailleurs, puisque Lille va jouer chez les Young Boys de Berne. Un match qui ne sera pas diffusé à la télé française. Ça paraît fou de dire ça en 2025, mais c'est à cause du sponsor sur le maillot de l'équipe suisse, un sponsor avec une entreprise de contrat financier jugée risquée par la répression des fautes. Voilà pourquoi ce match ne sera pas diffusé, Jean Baumel.
Oui, pour beaucoup de supporters lillois, ce scénario ne les arrange pas.
On va le suivre tant que bien que mal et sur les réseaux ou en audio, mais ce sera pas possible. Puis c'est dommage, c'est un match de Coupe d'Europe quand même.
C'est quand même intéressant à suivre, si je comprends pas qu'il y ait pas de diffusion.
Pour le coach lillois, Bruno Genesio, ça ne change pas grand-chose dans sa préparation, mais il comprend cette situation délicate.
On se préoccupe pas trop de tout ça lorsqu'on est sur le terrain. Il y a des lois qui sont votées par nos parlementaires sur des sociétés de placement à risque. À partir du moment où il y a une loi, ça me paraît logique qu'elle soit appliquée.
Même chez les joueurs suisses, il y a de la déception de ne pas être diffusé, comme l'explique le défenseur international algérien Jaoua Najam.
Toute ma famille, à moi personnellement, et pour certains joueurs dans l'équipe, est en France, mais c'est comme ça, c'est les règles.
Hormis les 854 supporters lillois qui seront présents en Suisse, la meilleure manière de suivre la rencontre est de nous écouter à 18h45 sur RMC.
Évidemment, on sera au rendez-vous et je vous signale aussi que demain, la France jouera face à l'Allemagne en demi-finale du mondial féminin de handball. Les Bleus qui ont battu le Danemark 31-26 hier soir en quart de finale.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08. On parle économie et santé.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Lechypre. Emmanuel, après le vote du budget de la Sécu, les mutuelles vont en réalité devoir payer une surtaxe de 1,1 milliard d'euros. Mmh. Elle va être payée par nous, les assurés, non ?
Alors, oui, parce que dans le passé, les mutuelles ont toujours répercuté l'augmentation de leurs coûts, mais ce sera sans doute pas tout de suite. Ah. Elles devraient quand même retenir un peu leurs bras. Pourquoi ? Parce qu'en 2025, elles avaient renchéri leur tarif de 6% parce que le gouvernement Barnier voulait à l'époque qu'elles prennent une plus grande part au remboursement des consultations médicales et des médicaments pour soulager l'assurance maladie. Sauf que cette mesure n'a jamais été adoptée, donc que les mutuelles ont encaissé de l'argent qu'elles n'ont pas dépensé. Et donc, pour ne pas se faire taper sur les doigts du genre « Attendez, vous allez quand même pas à nouveau augmenter vos tarifs alors que vous avez profité l'année dernière d'une hausse qui vous a été très favorable, il est probable que, du coup, elles vont rester assez sages et qu'elles n'augmenteront pas plus que prévu les tarifs pour 2026, qui sont quand même déjà en partie définis. Sauf que les hausses pour 2026, je vous rassure, c'est déjà entre 3,5 et 10%.
Super rassurant.
Voilà. Super Donc, il y a déjà rassurant. Des hausses qui sont dans les tuyaux.
Elles finiront en plus par se rattraper quand même à un moment ou à un autre. En 2027, on va être mangé.
Et d'autant plus facilement, Apolline, qu'elle ne manque pas de motifs pour augmenter des tarifs qui ont quand même bondi sur les 5 dernières années de plus de 27%, soit deux fois plus vite que l'inflation, parce que les dépenses de santé augmentent avec le vieillissement, parce que les médicaments et les nouvelles technologies médicales coûtent de plus en plus cher, parce que certaines prestations médicales ont été revalorisées, parce que le zéro reste à charge pour les lunettes, les prothèses dentaires, les audioprothèses est payé par les mutuelles. Nous n'avons pas donc fini de payer plus cher ces mutuelles.
Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter de payer trop cher ?
Alors d'abord, comparer les prix. Vous seriez surpris quand même des écarts de tarifs à prestations comparables entre les différentes mutuelles. Donc allez voir les comparateurs en ligne, c'est pratique. Il faut bien ajuster ses garanties à ses besoins. Par exemple, il y a l'état de mutuelle où vous avez des dépassements d'honoraires qui sont prévus, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de tout ça? Privilégiez aussi les réseaux de soins partenaires des mutuelles. Si vous n'êtes pas malade souvent, optez pour l'option franchise. Vous payez moins de cotisations. Quand il vous arrive quelque chose, vous payez un petit reliquat. Mais si vous n'êtes pas malade souvent, ça peut valoir le coup. Et puis, regroupez les contrats dans une famille. Par exemple, vous avez souvent le père, la mère qui sont chez deux sociétés de mutuelles différentes parce que ça dépend de leur entreprise. Vous avez intérêt souvent à regrouper au sein d'une même mutuelle pour la famille. Et là, vous pouvez gagner quand même au moins 500 euros par an. Donc,
Ça vaut la peine. Merci Emmanuel Lechypre, 8h11 sur RMC.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Dans un instant, c'est Arnaud Demange qui nous rejoint. Notez qu'à 8h30, l'invité du face-à-face, c'est l'ancien chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers. Vous entendrez son inquiétude. La France est-elle prête face à la guerre? Et puis, juste après, ce sera Nicolas Canteloup. On en aura bien besoin, justement, de rire avec Nicolas Canteloup, comme chaque matin. Ce sera à 8h50. On se retrouve dans un instant, 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h14 et quel plaisir. Arnaud Demange qui est avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour Apolline. Oui. Bonjour à tous les amis. C'est Noël. Mais Noël approche. Alors découvrons aujourd'hui qu'est-ce qui se cache dans le calendrier de l'Avent du LOL. Oh, un jeu de société. C'est Fachorama. C'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu qui fait scandale au ministère de l'Intérieur. C'est un genre de jeu des sept familles édité par des antifascistes. Et dans Fachorama, il y a un perso flic raciste de la BAC. Alors le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a porté plainte pour injure. Il porte beaucoup plainte en ce moment. Il y a 15 jours, c'était contre Pierre-Emmanuel Barré, humoriste. Là, c'est contre un jeu de société. Il va finir par porter plainte contre la Pat Patrouille. Il va débouler devant son fils. Matteo Nunez, qu'est-ce que je vois? Alors comme ça, les policiers, c'est des chiens? Mais papa, non, c'est mon dessin animé préféré. Je t'ai pas élevé comme ça. Mon fils est un gauchiste. Mon fils est un gauchiste. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des jeunes abonnés qui vivent torse nu dans la nature. Mais c'est les schtroumpfs.
C'est des zadistes.
Non, c'est des zadistes. Papa va devoir gazer les schtroumpfs. Oh. Est-ce que l'ordre des médecins a porté plainte contre le docteur Maboul, hein? Et pourtant, l'anesthésiste de Frédéric Péchier pourrait crier au plagiat. Il a des trucs à dire. En tout cas, c'est une bien belle idée de cadeau pour votre neveu LFiste, Fachorama.
Ouais, alors, dans la famille gros bourge de cato intégriste de merde, je demande le mari et le cousin. Mm. Perdu, c'est le même. Oh, j'aurais pas dû choisir la famille. Oh.
Nicolas Sarkozy a donné un grand entretien au Point, et pour l'ancien président, Jordan Bardella aurait pu être un jeune du RPR des années 90.
Ouais, son papa aurait été Alain Juppé, sa maman Charles Pasqua. Ah, j'aurais bien aimé voir la nuit de noces. Dis donc Charles, je ne te savais pas si séduisant.
Oh Alain, qu'est-ce qui nous arrive? Sens-tu la chaleur monter?
Allez en piste, enlève ton pantalon. Et 9 mois plus tard, Jordan Bardella naissait. Non, en fait, on n'aurait pas aimé voir la nuit de noces. Alors Nicolas Sarkozy le dit dans son livre, il ne veut plus faire barrage systématiquement au RN, il trouve que ça sert à rien. Donc en 2027, il n'appellera pas forcément à barrer la route à Marine Le Pen, voire il n'appellerait pas du tout à lui barrer la route, voire il appellera à voter pour elle. De toute façon, je vois, il le dit dans son bouquin, page 88, je cite, « Je vais pas voter pour ces connards de LR qui m'ont même pas envoyé un SMS, alors qu'au RN, ils ont été sympas. » Je traduis un peu.
C'est ça, vous traduisez quand même un petit peu.
Je ne trahis pas l'esprit, mais c'est un peu traduit. Je le dis avec mes mots à moi.
La télévision espagnole, enfin les télévisions espagnoles, irlandaises, néerlandaises et slovènes boycotteront l'Eurovision pour protester contre le maintien d'Israël au sein du concours.
Oui, donc il va plus rester qu'Israël et la France, en fait, si tout le monde boycotte. Et vous savez ce que ça veut dire?
On va gagner.
Ça veut dire qu'on a une chance de finir deuxième. Oui,
deuxième.
Alors, Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, a déclaré « Jamais la France ne s'engagera dans la voie d'un boycott d'un peuple, de ses artistes ou de ses intellectuels. » Artiste et intellectuel. Il a déjà regardé l'Eurovision. Ça reste des amateurs de tectonique moldave équipés d'une grosse moustache en plastique avec des chapeaux en forme de plots de chantier qui font de la harpe laser dans de la fumée rose, quoi. C'est pas Boualem Sansal qui représente les pays au concours. C'est pas des trucs.
La FIFA, Arnaud, a annoncé qu'il y aurait non plus seulement des mi-temps, mais aussi des carton désormais, ouais. Pendant les matchs de la Coupe du Monde 2026, une pause hydratation de 3 minutes.
Ouais. Vous imaginez s'ils faisaient des pauses hydratation au rugby, ce serait marrant, les joueurs reviendraient sur le terrain 3 heures plus tard, défoncés à la bière, incapables de savoir de quel côté on joue. Là, ce sera au foot, et pendant cette coupure, les diffuseurs pourront insérer de la pub, il y aura de la pub partout pendant cette Coupe du Monde. C'est quoi la suite pour la FIFA? Ils vont insérer des pubs pendant les commentaires de match. AMC, l'after-foot, Gilbert Bribois.
Gilbert Bribois.
On est de retour après la pub pour ce Metz Le Havre et on est avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Et oui, malheureusement, la pub est finie. On est obligé de continuer à regarder cette purge de match.
Oh Daniel, tu peux pas dire ça Daniel. Oui, la pub, la FIFA nous demande de mettre des pubs partout, donc on va... Oh, coup franc. Coup franc, c'est Sabali qui s'apprête à tirer. Et ce coup tiré vous est offert par Jacques et Michel. Non. Et c'est le but. But, on se lève tous du banc. Oui, on se lève tous du banc pour Danette. Quel trou dans la défense. Heureusement, Carglass répare et Carglass remplace.
Qu'est-ce qu'il est nul, ce gardien du Havre. Il est d'une lourdeur. Tu sens qu'il a bouffé tous les chocos suisses. Ça saute pas très haut, le mec. Pourquoi il joue là, d'abord?
Parce qu'il le vaut bien, Daniel.
Ouais, fun, en tout cas. Ça changerait. J'achète. Allez, à demain.
Arnaud Demange, tous les matins, avec nous, les 8h19. Et c'est l'heure d'ouvrir le calendrier de l'Avent.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Oh là là, quel kiff. Bonjour, Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, chauffagiste dans le Finistère. Nicolas, c'est vous qui avez gagné aujourd'hui. J'ai trop hâte d'ouvrir. Alors, on est quel jour?
Alors, on est le 13.
Non, on est le 11.
Ah bah Nicolas, faut suivre. Alors attendez, j'ouvre, on y va. Oh là 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 là. Vous avez remporté, Nicolas, l'iPhone 17, le smartphone de chez Apple. Valeur 969 euros, joyeux Noël. Franchement,
merci.
Alors là.
Merci beaucoup.
Merci à vous de votre fidélité à RMC. C'est un bonheur de vous gâter tous les matins. Bravo, bravo Nicolas. Comme Nicolas, vous envoyez Noël au 7-32-16 et on vous couvre de gâteaux. De gâteaux. Allez Nicolas, je vous envoie un gâteau. Il est 8h20. Bon appétit à ceux qui prennent leur petit déjeuner. Moi, c'était il y a bien longtemps. 8h20. Dans un instant, mon invité, c'est l'ancien chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers. Il est inquiet. La France est-elle prête si la guerre se déclenche? Les inquiétudes, le regard lucide du général Pierre de Villiers, c'est dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Pierre de Villiers.
Bonjour
général
madame.
Pierre de Villiers, général d'armée. Vous êtes l'ancien chef d'état-major des armées et vous publiez pour le succès des armes de la France. J'ai lu attentivement votre livre qui s'inscrit dans un moment d'inquiétude générale, de menace globale. Et ce qui m'a profondément inquiété à la lecture de votre livre, c'est qu'il aurait pu s'appeler « Une étrange défaite ». Ai-je tort ?
Oui, je fais référence d'ailleurs à ce livre. Et la question qu'il faut se poser, c'est sommes-nous prêts? S'il advenait que il y a une situation un peu analogue à celle que connaissent les Ukrainiens. J'avais pressenti tout ça en 2017. Je voyais bien monter les états-puissances, le terrorisme islamiste radical. Je sentais le désengagement progressif américain de l'Europe. Et je voyais simultanément le réarmement de beaucoup d'états-puissances, et nous savourions les délices des dividendes de la paix. Haute pression, basse pression. Les forts attaquent toujours les faibles.
Les forts attaquent toujours les faibles et c'est véritablement le fil conducteur de votre livre. Vous commencez d'abord effectivement par raconter, re-raconter, réexpliquer cet épisode, qui est l'épisode qui fait que vous, l'homme de réserve, qui n'avait pas forcément, qui n'allait pas à l'époque sur les plateaux, vous étiez devenu l'homme du grand public parce que vous étiez apparu comme l'homme qui avait dit non. Vous aviez quitté votre job de chef d'état-major des armées à l'arrivée d'Emmanuel Macron, après un différend que l'on avait cru à l'époque un différend d'une sorte de vexation, cette fameuse phrase « je suis votre chef » qu'il avait dit, qu'il vous avait adressé, mais devant tous les autres. Il y avait une question d'honneur, mais il y avait une question de fond, dites-vous. Vous aviez vu avant les autres. Les faits m'ont donné raison. Vous parlez de lacunes, de manque d'effectifs, de logistique, de budget, de stratégie. Les choses ont-elles changé ?
C'est-à-dire que nous avons une armée magnifique, avec des soldats, marins, aviateurs, prêts au sacrifice suprême, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais nos armées ont été dimensionnées en une trentaine d'années. Avant la chute du mur, nous faisions la préparation à la guerre. Après la chute du mur, nous sommes capables de faire des opérations de guerre. C'est pas la même chose. Il faut reprendre cette capacité à faire la guerre. Ça veut dire de l'épaisseur. Ça veut dire des effectifs supplémentaires, des équipements supplémentaires, de la logistique. On parle beaucoup de munitions en ce moment, quand on voit les consommations en munitions de la guerre moderne. Ça veut dire les technologies modernes, par exemple la révolution des drones. Il y a beaucoup à faire et il y a urgence.
Quand vous dites qu'au fond, en termes de vraiment d'équipements importants, par exemple le nombre de chars, on en est toujours au même point. On a 200 chars.
Oui.
On n'en a pas un de plus qu'il y a 10 ans.
Notre modèle, en termes de matériel majeur, n'a pas bougé depuis 2017.
C'est pourquoi
je parle de l'équipement.
Nous avons
200 chars, dont 150 seraient bons de guerre, prêts à partir au combat. Nous avons 200 avions de combat et 15 frégates de port-mirant pour la marine. Et nous avons, avec les crédits supplémentaires, je salue cet effort, mais il est finalement trop modeste par rapport à la dégradation de la situation internationale. Nous avons bouché les trous. Parce que pendant des décennies, nous avons laminé notre outil de défense.
Vous parlez d'ailleurs de cet effort, vous le saluez. Hier soir, les députés qui ont été consultés donc sur le budget de la défense l'ont largement soutenu. C'est un vote plutôt symbolique, mais ils ont, à 411 voix pour et seulement 88 voix contre, soutenu l'effort de 6,7 milliards d'euros supplémentaires. Il était temps.
Oui, c'est un bon signe et j'ai écrit ce livre précisément pour cela, pour que lors des prochaines élections, nous aurons les municipales, les législatives, les présidentielles, nous puissions mettre au premier rang des préoccupations de nos futurs élus la défense, protéger la France et les Français.
Ça vous rassure les 411 pour, c'est-à-dire que au fond, ce que l'on entend aussi à demi-mot dans votre livre, c'est votre inquiétude sur l'unité ou non de la nation. C'est-à-dire, c'est pas seulement une question de munitions, c'est pas seulement une question de nombre de chars, et c'est pas seulement une question de menaces. C'est aussi notre capacité, nous, à faire bloc.
Oui, nous savons très bien, nous, les militaires, que les guerres se gagnent par les forces morales. Nos 25 000 jeunes qui rentrent dans l'armée tous les ans, on leur apprend à ne pas reculer, et ils vont jusqu'au sacrifice suprême, si nécessaire. Eh bien, il faut retrouver cette unité nationale, cette cohésion nationale. Et de ce point de vue-là, le vote d'hier est un bon signe, mais il faut aller beaucoup plus loin. Vous savez, la culture de défense chez nos dirigeants a un peu disparu avec la suppression du service national.
Alors, d'ailleurs, vous en parlez, vous dites que la suspension, je vous cite, la suspension du service national par le président Chirac a été une faute politique majeure. Est-ce que vous êtes favorable au retour du service militaire, et d'ailleurs obligatoire ou volontaire ?
Alors, je suis favorable, et je l'écris dans mon livre, à ce qui a été proposé récemment par le président de la République. On va démarrer avec 3000 volontaires et 50 000 en 2035. Je pense qu'on pourrait peut-être aller plus vite. Ça sera déjà un premier pas, et ces soldats étant consacrés au théâtre national, ce qui va permettre de dégager des effectifs avec les engagés. Je suis favorable surtout à l'unité nationale. Il faut réapprendre à nos petits Français à aimer leur pays. Comment voulez-vous imaginer qu'ils se battent pour leur pays s'ils ne l'aiment pas ?
Mais justement, vous consacrez aussi de manière, je dirais, on vous sent assez prudent, Vous êtes, général Pierre de Villiers, aussi le frère de Philippe de Villiers, qui, lui, s'exprime beaucoup sur la question de la situation nationale. Et on sent bien, je crois pouvoir le dire, que dans votre livre, vous faites attention justement à ne pas tomber dans ce qui serait de l'ordre de la politique immédiate. Mais tout de même, vous vous inquiétez d'une crise, je cite, civilisationnelle, c'est ce que vous dites. La dernière des crises, parce qu'il y a une juxtaposition de crises que vous listez, la crise économique, les crises. Mais vous dites la dernière, mais sans doute la plus importante, c'est la crise civilisationnelle, une déshumanisation croissante, une perte de nos racines judéo-chrétiennes. Nous avons sacrifié notre identité en une soi-disant fraternité universelle. Ça veut dire quoi ?
Ben, on a commencé cet entretien par l'étrange défaite, et quand je regarde l'histoire de France, en 1870, en 1914, en 1939, trois cas complètement différents, il y a un point commun, c'est que nous étions à l'époque en crise économique, en crise politique, en crise sociale et en crise financière. Et l'enchaînement a été immédiat, incapacité de réarmer, défaite. Et je ne voudrais pas que ce scénario se reproduise, tout simplement.
Mais vous ajoutez à ces crises-là cette toute nouvelle qui est cette crise civilisationnelle. Vous avez dit, il faudrait que nos petits Français, je vous cite, réapprennent aussi en quelque sorte l'amour de la patrie. Je ne sais pas si vous aviez entendu, mais Louis Sarkozy, qui est chroniqueur chez moi sur RMC, a défendu la semaine dernière l'idée d'une sorte de loterie pour les migrants qui arriveraient en France, que 10% d'entre eux, chaque année, soient tirés au sort pour participer à ce service national volontaire, mais qui dans l'espèce serait obligatoire. Une sorte, en quelque sorte, de légion étrangère, mais de l'armée quotidienne. Est-ce que vous estimez que ça pourrait être une bonne idée ? Est-ce qu'il faut faire un creuset de patriotisme ?
Mais bien sûr, il faut retrouver notre creuset national. L'amour du pays, l'amour du drapeau, la terre des pères, la patrie, c'est ça qu'il faut retrouver. Nous l'avons perdu avec ce mythe de la mondialisation, ce mythe de l'armée européenne. Nous l'avons perdu, il faut retrouver la proximité, l'attachement à notre pays. Vous savez, nos jeunes, quand ils arrivent, au bout d'un mois de formation, ils ont la présentation au drapeau. Le drapeau français, bleu, blanc, rouge, passe avec honneur et patrie. C'est la nuée de tous ceux qui sont morts pour nous, qui passent devant eux. Et ils le sentent, ils le sentent, ils retrouvent leurs racines.
Je suis frappée, et je crois qu'on peut se le dire ici, désormais il y a prescription en quelque sorte. Quelques semaines avant que vous ne quittiez votre poste de chef d'état-major des armées, vous m'aviez reçu à déjeuner à l'école militaire pour me parler de ce dont vous étiez, je crois même, le plus fier à l'époque, qui étaient ces jeunes qui intégraient pour quelques semaines, quelques mois, l'armée. Et vous disiez que c'était la meilleure manière précisément de devenir français. Je me souviens à l'époque de votre passion pour ce modèle. Ça veut dire que vous n'êtes pas contre l'immigration, vous êtes contre le fait qu'il n'y ait pas d'intégration ?
Mais moi, je suis toujours passionné par ce modèle, ce creuset français. Et j'ai vécu des situations avec des jeunes issus de l'immigration qui se sont comportés comme des héros, évidemment. Mais il y a une différence, c'est qu'ils aimaient la France. Ils étaient prêts à se sacrifier pour elle, pour rendre finalement à la France ce qu'elle avait fait, l'accueil de leur grand-père, de leur arrière-grand-père. Et c'est cet amour de la France qu'il faut retrouver.
Ce n'est plus le cas.
Écoutez, ce n'est plus toujours le cas et il faut le retrouver dans l'éducation nationale, dans les familles, dans notre société. Il faut qu'il y ait une nouvelle dynamique pour ce réarmement des forces morales. C'est le dernier chapitre de mon livre sur lequel j'insiste parce que c'est le cœur du sujet.
Un dernier chapitre qui se veut d'ailleurs plein d'espoir, je vais dire même vos tout derniers mots, les derniers mots de votre livre, c'est « Espérance rime avec France ». Vous voulez encore y croire, mais vous qualifiez notre époque d'ambiguë, je vous cite, avec ses juxtapositions de crise et ses démocraties qui sont faibles. Nos démocraties, l'Union européenne, l'OTAN, l'alliance qui est en train de disparaître avec les États-Unis, est-ce que tout cela nous affaiblit ?
Oui, mais l'ambiguïté, c'est un poison quand on gouverne. J'ai une expérience du commandement quand même en 43 ans. Il faut de la clarté. D'ailleurs, moi, les gens me disent, avec vous, c'est clair. Quand vous faites une interview, c'est clair. Vous répondez de manière claire. Je crois que on manque de clarté aujourd'hui. On peut pas faire le lundi quelque chose, le samedi l'inverse, en disant que tout va bien, Madame la Marquise. C'est plus possible.
En fait, vous ne supportez pas le « et en même temps ».
Je supporte pas l'ambiguïté parce que le stratège, il a besoin de clarté et la profondeur de temps que je donne à mon livre dans le modèle d'armée que je propose, c'est 2035 et il y a de la clarté. On peut emmener les gens vite, fort, loin à la condition qu'ils sachent où l'on va de manière claire.
Qui est l'ennemi ? C'est le nom de votre chapitre 2. Qui est l'ennemi ?
L'ennemi aujourd'hui, il est de deux natures, qui sont distinctes mais pas disjointes. D'abord, le terrorisme islamiste radical, cette idéologie qui vise à éradiquer l'organisation de nos sociétés et qui progresse grandement dans notre monde, singulièrement en Afrique en ce moment, en descendant du nord vers le sud. Et simultanément, le retour des États-puissances, ces pays qui ont des stratégies de long terme, quand eux, ils visent génération au pluriel, nous visons la prochaine élection au singulier.
Vous êtes effrayé, et vous le dites, par l'incapacité de nos politiques à reprendre de la hauteur, à regarder loin devant la monture et à être obsédé par la prochaine dépêche. Mais il y a aussi ce qu'il se passe du côté des États-Unis. D'ailleurs, vous racontez l'une de vos dernières journées alors que vous étiez chef d'état-major des armées, où en gros, le matin, il y avait une réunion avec Angela Merkel, l'après-midi avec Donald Trump, qui était venu pour le dernier 14 juillet que vous aviez vécu sur les champs. Et vous aviez face à vous, au fond, la fin, ou en tout cas une alliance de raison avec les Allemands, dites-vous, et de l'autre côté, un personnage hiératique, difficilement compréhensible sur le long terme, pas franchement méchant, mais difficile à suivre. Aujourd'hui, quand vous entendez les mots de Donald Trump, il a parlé ce week-end à propos de la France, d'un effacement civilisationnel qu'il anticipe de l'Europe, de l'effondrement du taux de natalité, des pertes des identités nationales, de la perte de la confiance en soi. Il émet le vœu, je cite, que l'Europe reste européenne, retrouve sa confiance en elle-même sur le plan civilisationnel, abandonne son obsession infructueuse pour l'asphyxie réglementaire. Est-ce que vous partagez de ce point de vue-là l'inquiétude de Donald Trump?
Alors, Donald Trump, il est très imprévisible dans son comportement, je l'ai vécu, et je l'ai vu lors de réunions, mais il est très prévisible dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, il le dit depuis longtemps. Alors, ses propos sont très forts, voire très agressifs. Mais, en l'occurrence, ce n'est pas une surprise que les Américains, petit à petit, basculent vers le Pacifique.
Mais quand il dit ça, vous pensez qu'il le souhaite? Il parle d'ailleurs de nos pays comme des pays en état de décrépitude. Pensez-vous qu'il le souhaite ou pensez-vous qu'il veut nous réveiller?
Ah ben moi, je pense qu'il veut nous réveiller parce que il a besoin. Je ne pense pas qu'il a besoin d'une Europe faible. Au contraire, il veut se désengager de l'Europe parce qu'il veut basculer vers ce qu'il considère être son futur adversaire ou son adversaire actuel, la Chine. Et ce n'est pas nouveau. Depuis Brzezinski et America First, ce n'est pas une surprise. Je le sentais dès 2017.
Sont-ils
quant
nos amis,
à notre pays, la description qu'il fait de notre pays, je crois qu'il faut que nous en tirions des leçons. Nous avons perdu notre fierté. Oui, les fractures sociales, intergénérationnelles, géographiques dans notre pays, l'archipel français, c'était déjà il y a plusieurs années. Et les fractures sont très profondes, je les décris dans mon livre.
Est-ce qu'au fond, ce qui vous inquiète le plus à court terme, c'est la guerre que des ennemis pourraient nous déclarer, ou c'est la guerre qui s'installe en France dans cette archipélisation, comme vous dites? Est-ce que vous craignez carrément une guerre civile?
Ce sont les deux situations qui sont inquiétantes, de l'extérieur et à l'intérieur. J'ai connu avant la chute du mur les Spetsnaz parachutés qui venaient pour préparer le terrain avec les Russes qui arrivaient. Nous n'en sommes pas là. Mais nous avons des islamistes radicaux sur notre théâtre, sur notre territoire. Nous avons le cartel de la drogue qui s'installe. Et eux, ce ne sont pas des simples dealers, ils tirent. Il y a un niveau de violence dans notre pays extrêmement inquiétant. La délinquance progresse, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Tous les Français le savent. Il est temps de restaurer l'autorité à l'intérieur de notre pays. Et simultanément, à l'extérieur, effectivement, il y a des pays de plus en plus forts. Il y a l'islam radical qui fait pression. Donc la situation est grave. C'est pour ça que j'ai repris ma plume. Ce n'était pas mon intention initiale. Il faut réarmer la France pour que nous puissions préserver la paix, car seule la force fait reculer la violence.
Vous ne vouliez pas reprendre la plume, vous l'avez fait. Vous dites régulièrement que vous ne souhaitez pas avoir à nouveau des responsabilités d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que, comme pour le fait d'écrire, vous pourriez vous dire à un moment, il faut quand même que j'y aille?
Mon but unique, c'est au travers de ce livre de sensibiliser, d'informer, de mettre sur la table ce sujet de la protection de la France et des Français avant les futures échéances électorales.
Vous n'y prendrez pas part ?
Pour que ce n'est pas du tout mon intention. Mon intention, c'est de mettre ce sujet sur la table pour que, enfin, dans une élection présidentielle, on puisse parler de la protection de la France et des Français.
Votre successeur, le chef d'état-major Manon, qui parle de la question. Au fond, on a surtout gardé la phrase sur « il faut être prêt à perdre nos enfants ». Mais il dit surtout « il faut être prêt, effectivement, moralement, parce que si les autres savent que nous ne sommes pas prêts à perdre nos enfants, alors nous serons attaqués. De ce point de vue-là, partagez-vous le diagnostic ?
C'est la question centrale, évidemment. La première qualité d'un peuple, c'est sa capacité à se défendre. Le général de Gaulle le disait, son concept d'autonomie stratégique, c'est le cœur de notre système encore actuel avec la dissuasion nucléaire et la force conventionnelle. Nous avons la dissuasion nucléaire.
Ça
nous n'avons plus
chose.
La force conventionnelle suffisante pour faire la guerre.
C'est précisément ce que j'allais vous demander. On a pendant des années pensé que de toute façon, avec la bombe atomique, nous n'étions plus menacés. Et quand on voit la Russie a la bombe atomique, mais en réalité la guerre qu'elle a déclarée à l'Ukraine, c'est une guerre conventionnelle. Est-ce que nous avons la force conventionnelle ? Est-ce que c'est cette guerre-là qui nous serait menée ?
La dissuasion nucléaire a gagné la guerre froide. Mais pour une raison majeure, c'est qu'elle était couplée avec le même niveau de seuil de suffisance avec l'armée conventionnelle. Et c'est ce qu'il faut retrouver en urgence, par un réarmement massif.
L'armée conventionnelle, c'est-à-dire, comme vous dites, les munitions, au sens propre du terme.
La logistique, la capacité à durer, les effectifs supplémentaires, les effectifs, ça veut dire qu'il faut que nous retrouvions une croissance démographique, et puis
les équipements majeurs. Vous auriez dit le réarmement majeurs. Démographique ?
Bien sûr, je pense que une des raisons pour lesquelles la Russie continue à progresser militairement, ce sont ses effectifs qui sont quatre fois supérieurs sa population aux Ukrainiens.
Donc il faut être prêt à perdre ses enfants.
Il faut accepter que la situation de paix que nous vivons depuis 80 ans est en train de changer et que la menace est grandissante. Et plus nous le ferons vite, plus nous redeviendrons forts. Plus nous protégerons la paix. Si vis pacem, parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre.
Général d'armée Pierre de Villiers, pour le succès des armes de la France, c'est aux éditions Fayard. Je profite d'ailleurs quand même de l'occasion pour m'adresser aussi à votre frère qui nous regarde peut-être, parce que sachez, et je trouve que c'est important que tout le monde l'entende, que j'ai régulièrement également invité votre frère Philippe de Villiers, qui a écrit aussi chez Fayard, mais il refuse, alors que je l'invitais et qu'il répondait à mes questions avant. Désormais, il semble préférer une sorte de huis clos où il y a les journaux, la maison d'édition, les émissions télé, je crois, pour ma part, au débat. Il est donc le bienvenu, n'hésitez pas également à le lui dire, mais je voulais que le message soit passé. Merci, Général Pierre de Villiers. Il est 8h45 sur RMC et BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Et comme tous les matins, pour notre plus grand bonheur, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Le général Pierre de Villiers était mon invité ce matin. Son frère, Philippe de Villiers, voulait vous dire un mot.
Madame Malherbe, j'ai entendu le petit tacle glisser que vous m'avez servi. Écoutez, vous me dites, je ne viens jamais celui-là.
Alors, c'est ça.
Hein? Non, je viendrai le jour où là, sur ce mur, il y aura marqué RM CNews.
Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà.
Alors j'aimerais parler de mon frère. Quelles sont ses trois plus grandes qualités? Quelles sont-elles? Oui, j'aime bien marquer des gros temps de silence pour montrer que ma parole compte, que ma parole est précieuse, que ma parole est rare. Hein, même si c'est vrai que j'ai micro ouvert pendant près d'une plombe tous les jours sur CNews. Alors, revenons à nos moutons. Première qualité de Pierre, c'est un visionnaire. Visionnaire, elle a toujours un coup d'avance. Deuxième qualité.
Non, mais je suis pas sûr qu'on ait le temps là.
Pourquoi? Et quelle heure?
Ça y est, il est
8h51. Attendez, 52. Non. Oui, ben écoutez, votre journal de 9h, vous l'annoncerez cet après-midi.
Ah,
voilà.
On y va, alors.
Je me prends mais aux conneries de me couper sans arrêt. Alors, j'en étais où? Deuxième point.
Ah oui, on a été
Pierre,
au
Pierre,
point.
Pierre, mon frère. Mon frérot. Oui, parce que je sais parler jeune, je m'adapte. C'est un animal à sang froid.
Ouais.
Il peut tout refroidir, même l'ambiance. Moi, je l'ai vu invité à un baptême d'un gamin de 2 ans. Il a demandé aux parents s'ils avaient réservé une place pour le petit dans le chaos familial. Je vous dis, pense à tout. C'est un visionnaire, un coup d'avance, toujours. Et puis, il a une qualité qui gâche rien. Il parle toutes les langues. Il a un master en langue de bois. Tu ne feras jamais répondre à une question à laquelle il ne veut pas répondre. Même sous la torture, reste de marbre. Tu vois, pour ne pas répondre, il y a une botte secrète. Il dit toujours, c'est pas dans mon livre, c'est pas l'objet de mon livre. Ouais. Et a été interrogé par les plus grands. Fogiel, rien, il n'a pas lâché. Darius Rochebain, rien, il n'a pas lâché. Christine Kelly, il n'a rien lâché. Même face à Flavie Flamand, il n'a pas craqué. Elle a essayé de le piéger.
Avec moi un peu.
Si, elle a essayé de le piéger en lui demandant « Quelle heure est-il ?» Et a répondu « C'est pas dans mon livre. »
Vous partagez son analyse sur les menaces extérieures qui viendraient notamment de la Russie.
Non, mais Pauline de Maillard, la menace, elle vient de l'intérieur. C'est notre culture qui est menacée. Ouvrez les yeux, il y a quoi autour de nous? Des militants véganes polyamoureux sur notre territoire. Des auditeurs de France Inter pansexuels. Des hipsters barbus abonnés aux inrecuptibles. Des transgenres qui jouent au Molki. Des goudous à cheveux roses qui organisent des couscous solidaires à Sainte-Soline.
Est-ce que vous pensez qu'il faut réarmer la France?
Mais bien sûr. Bien sûr, on le voit avec l'Ukraine. Aujourd'hui, on est sur une guerre de mouvement. Donc, à tout prix, il faut tout de suite relancer l'élevage de chevaux et de poneys Shetland pour être mobile. Et la fabrication d'armes légères, arbalètes, mousquets, halbardes. C'est ça l'avenir.
Merci Philippe de Villiers. Emmanuel Macron arrive avec nous. Vous avez bien connu le général de Villiers. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour chère Pauline Baller. Bonjour au général de Villiers, que je suis ravi de revoir, même si ça ne se voit pas forcément. Écoutez, aujourd'hui, que me reproche-t-on? On me reproche de ne pas avoir écouté le général Pierre de Villiers alors qu'il m'alertait à l'époque sur les dangers en 2017 qu'encourait la France. Mais pardon, je dis pardon. M'a-t-il prévenu que les Français étaient capables de se tirer une balle dans le pied en votant comme des cons? Non. M'a-t-il prévenu que je risquais des tirs dans le dos de la part de mon Édouard Philippe et mon Gabriel Attal? Non plus.
Oui, peut-être. Enfin, il était quand même d'accord avec vous sur la relance du service militaire. Hein. D'ailleurs, vous l'avez entendu, même s'il faut trouver le bon encadrement.
Écoutez, Madame de Malherbe, le bon encadrement, nous l'avons. L'instructeur idéal, on l'a. Pour nos jeunes recrues, pour les former, les commander, on l'a, c'est Brigitte. Je l'entends déjà. Vous bougez le cul, bande de fions, bande de petites fiottes, ou il faut que je vous batte le cul avec mes talons de 15.
C'est sûr.
Oui, Brigitte n'est pas très méthode Montessori.
Non.
Juste avant de quitter le général, je me permets de m'adresser à lui. Cher Pierre de Villiers, le code nucléaire, c'est bien 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Donc, comme le Louvre. Merci. Voilà.
Merci, Monsieur le Président. Tout de suite, on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité.
Eh oui, bonjour à Pauline, ici Thibaut Texer, le seul journaliste dont la voix sert aussi de brouilleur anti-drone. C'est parti pour les titres. Après l'annonce de la disparition de Stéphane Bern, de la participation, pardon. De Stéphane Bern à la prochaine, c'est oui, toujours un coup d'avance. À la prochaine saison de Danse avec les stars, l'émission sera baptisée Danse avec les stars. Stéphane Bern, bonjour. Oh non, on annonce ma disparition. Oh non, c'est pas drôle. Non, je suis tellement heureux, tellement oui. De participer à ce bal cathodique de Danse avec les stars. J'adore danser, c'est vrai, le menuet, la gavotte, la tarentelle. Par contre, c'est vrai, je redoute toutes ces danses modernes qu'affectionnent les jeunes dans les rêves parties ou les boîtes de nuit. La Java, le Foxtrot ou le Charleston, je ne suis pas très à l'aise avec ça.
Merci Stéphane, reprenez-vous.
Oui, et puis, chère Apolline, Miss Aquitaine et Miss Provence approuvent le projet de loi de réouverture des maisons closes du RN pour y placer, je cite, les grosses putes de candidates à Miss France.
Merci Thibault. La vidéo de Brigitte Macron traitant les féministes de salcon continue de faire couler beaucoup d'encre. Nadine Morano voulait réagir. Bonjour Nadine.
Non mais franchement, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait la Brigitte? Non mais je suis sur le cul. Quand on est première dame, faut un minimum de classe, merde. Elle représente quand même le peuple, excusez-moi. Ça lui arracherait la gueule à la Brigitte d'être un peu polie. Non mais je te jure, quand j'ai vu ça, tu sais quoi? J'ai failli dégueuler. C'est remonté jusque dans la bouche. Heureusement que j'ai avalé. Non. Ouais, parce que moi, je sais me tenir.
Ah, voilà, c'est ça, d'accord. Donc, est-ce que vous êtes une sale conne, Nadine Morano?
Non mais tu te crois où, la bourge? Non mais je suis en train de causer élégance et charme français. Toi, tu viens de traiter de bouffien sans dire à ta radio de merde. Non mais t'es malade ou quoi? On est chez Moscato, quoi. Non mais Marcel, rassure-moi. Elle a mis un coussin sous son siège ou quoi?
Non mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Plusieurs féministes se sont revendiquées de sales connes. Elles ont dit justement, je suis une sale conne.
Ouais, non mais je vois l'idée. L'idée, c'est comme quand je vois Sarkozy, que je lui dis salut ma couille, c'est affectueux.
Oui, voilà.
C'est comme quand je vois Larcher, que je lui fais un chabit, c'est pour dire bonjour, voilà. Non, parce que moi, j'ai beau être féministe, moi, je tiens avant tout à rester féminine. Bon, désolé de ma nerf, faut que je vous laisse parce que j'ai mon 38 tonnes qui est en double fil.
Merci Nicolas, passe à Chantou, qu'on retrouve tous les matins à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG, quel est le programme, Alain?
Les GG avec aujourd'hui Emmanuel de Villiers, Joël Dagosséry, Mourad Boudjelal. On regardera le budget. Est-ce qu'on a fait un budget pro-retraité et anti-jeune? C'est au 32-16 que ça se passe.